There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mazor avait perdu mal dedans. Il avait mal visé, mal ajusté, et donc il avait frappé le mec directement dans les dents, et évidemment on n'avait pas de protège-dents, donc il lui avait pété la dent, tout simplement, en deux. Et je me rappelle qu'il y a le commandant qui arrive à ce moment-là, et il voit, il voit 5-6 personnes qui sont comme ça. Qui sont attachés à un poteau, à n'importe quoi, à un truc que j'ai pu trouver pour menotter la personne. Et les instructeurs du GGN, de l'antenne GGN, nous disent, c'est simple, vous courez en groupe, et si on vous rattrape, vous dégagez. Il y a quelques années, je me suis engagé en tant que gendarme réserviste, et cette expérience a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, pour la première fois dans une vidéo, je voulais te parler de tout le processus de cette formation pour devenir réserviste, du début, des origines, à pourquoi je me suis engagé pour la gendarmerie et pourquoi la gendarmerie en particulier. Ensuite, à la formation en elle-même, à quoi ressemble la formation pour devenir gendarme réserviste et à quoi ressemble la vie en caserne. Puis ensuite, les missions extérieures, les missions que l'on fait lorsqu'on est gendarme réserviste et les petites anecdotes que j'ai à te raconter sur le sujet. Et puis enfin, en fin de podcast, je voulais te parler d'un bilan, donc du bilan de cette formation. Pourquoi est-ce que ça m'a plu? Qu'est-ce qui m'a déplu également dans cette formation? Et pourquoi aujourd'hui je ne suis plus gendarme réserviste? Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler de cette expérience de gendarme réserviste. Ça fait des années en fait, hein. Même avant d'être sur YouTube, je voulais un jour faire une vidéo pour documenter cette expérience. Et je ne savais pas que quelques années plus tard, j'allais être un YouTuber professionnel et que j'allais pouvoir vous en parler dans un podcast. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis très content de vous partager cette expérience et de vous raconter tout ça, tout ce processus et toutes les anecdotes qui vont avec, parce qu'il y a toujours plein d'anecdotes dès qu'on est dans un milieu militaire. Et voilà, j'ai un lot d'anecdotes à vous raconter évidemment qui viendront au fur et à mesure de ce podcast. Et même si ça me fait plaisir de vous parler de cette expérience, il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps aussi à la raconter et à en faire une vidéo dédiée, parce que bien que cette expérience de gendarme réserviste ait extrêmement bien commencé pour moi et ait eu un impact assez important dans ma vie, elle s'est malheureusement assez mal terminée. Et la fin de l'histoire est assez triste, et j'y reviendrai donc plus tard dans cette vidéo, mais c'est pour ça aussi que j'ai mis un petit peu plus de temps à en parler que prévu et que je le fais seulement maintenant, alors que ça fait plus de 2 ans que je suis sur YouTube. Voilà, donc je vous en reparlerai dans cette histoire. Justement, je vais essayer de respecter un petit peu la chronologie pour pas m'éparpiller, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et je vous mettrai en description de vidéo tous les chapitres de cette histoire pour que vous ayez un fil à suivre et pour que je puisse moi-même ne pas me perdre dans tout ce que j'ai à vous dire. Et puis je précise évidemment que cette vidéo, elle est disponible sur YouTube, mais cette histoire, vous pouvez l'écouter également en format audio sur toutes les plateformes de podcast, sur mon podcast, donc le podcast de Grégoire Dossier. Évidemment, tous les épisodes sont disponibles également en format audio sur Spotify et sur les autres plateformes de podcast. Voilà, je le précise quand même pour ceux qui ne le savent pas, si vous voulez écouter cette histoire en fond sans avoir forcément la vidéo. Ok, on va commencer avec le début. Lorsque j'étais au lycée, lorsque j'avais, je pense, 16 ou 17 ans, se passe quelque chose en France que je n'ai pas vécu directement, parce que j'étais à ce moment-là à Tahiti. Vous savez que mes parents sont professeurs et ils ont été mutés à Tahiti lorsque j'étais, moi, en fin de 3e, et donc j'ai fait tout mon lycée à Tahiti et ma première année de fac à Tahiti. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ce fameux jour de novembre 2015, se passe un attentat à Paris. Vous savez, c'est l'attaque du Bataclan, c'est l'attaque au Stade de France, c'est l'attaque dans les bars de France, c'est cette fameuse attaque terroriste qui a été commise sur le territoire français à 4 endroits différents en même temps, dans une nuit de novembre 2015. Et moi, je l'ai appris donc quelques heures après tout le monde, parce qu'à Tahiti, il y a un décalage horaire de 12 heures. Et donc moi, lorsqu'il était 21h à Paris ou 22h à Paris, il était 9h du matin à Tahiti. Et donc moi, je me souviens que ce jour-là, j'étais en latin, en cours de latin. C'était un vendredi après-midi à Tahiti, vers 15h à peu près, lorsque j'ai appris la nouvelle. Et je me rappelle qu'au moment où le professeur a eu un moment de silence entre l'intercours et la reprise du cours et qu'il a commencé à nous parler de cette attaque terroriste. J'ai pas vraiment tout compris en fait. J'ai pas pris conscience en fait de ce que c'était. J'avais 15-16 ans à l'époque et j'entendais parler parfois de conflits armés en Afghanistan, en Libye, en Syrie, dans des états que je connaissais que de nom, et je n'avais pas pris conscience qu'il y avait une attaque terroriste en France à ce moment-là. Et donc je me rappelle que même si le professeur nous avait pris 5 minutes du cours pour nous parler de ça, de cette actualité, et que lui avait sûrement pris conscience de l'impact que ça avait, moi je n'ai pris conscience de rien. J'étais un lycéen, je m'en fichais un petit peu, j'étais pas très intéressé par l'actualité, et donc j'ai pas pris vraiment conscience des choses. Donc en fait, lorsque je suis rentré chez moi après les cours, ma priorité à ce moment-là, c'était juste de jouer aux jeux vidéo et de sortir de l'école, de ne plus penser à l'école, de ne plus penser à mes cours. Et donc dès que je suis rentré chez moi après les cours, j'ai pris un goûter, je suis allé sur l'ordinateur, j'ai joué à Minecraft avec les amis parce que c'était ma routine à chaque fois lorsque je rentrais des cours. Et je me rappelle par contre avoir eu la première fois que j'ai réalisé cet événement, le fait qu'il y ait eu des attentats commis en France, c'est lorsqu'il y avait eu le JT de 20h, forcément, qui était dédié à ces attentats. Et pour la première fois, j'ai vu des images qui m'ont marqué plus que d'autres. Alors, je sais que ça peut faire un petit peu égoïste d'être impacté seulement lorsqu'on voit des images, par exemple, dans des rues de Paris que je connaissais parce que j'ai de la famille qui vit à Paris. Je sais que ça peut paraître un petit peu égoïste comme ça, mais moi, je vous le dis honnêtement, c'est la première fois que des images m'avaient marqué comme ça. Je me rappelle avoir vu, vous savez, ces couvertures jaunes qu'on met sur le corps des cadavres ou sur le corps des personnes qui ont besoin d'être emmenées d'urgence à l'hôpital. Ces fameuses couvertures un petit peu orange, jaune, dorées qu'on met sur les personnes qui sont blessées ou décédées. Je me souviens avoir vu les caméras de surveillance dans ces fameux bars qui ont été attaqués et de voir les personnes se cacher sous le comptoir, de voir des personnes se faire shooter en direct et on le voyait sur la caméra de surveillance, voir des cadavres dans la rue, entendre le bruit de la bombe qu'on a entendu, enfin le bruit de l'explosion au Stade de France, et voilà, c'est la première fois que j'ai ressenti un sentiment d'impuissance par rapport aux événements, et ça m'a beaucoup impacté, je dirais. Je crois que c'est la première fois qu'une actualité m'a fait pleurer le soir d'une actualité comme ça négative. Donc encore une fois, ça paraît peut-être un petit peu égoïste, mais je pense qu'on a tous besoin un jour d'être impacté plus par une actualité pour ensuite faire quelque chose de positif. Et donc moi, cette fameuse actualité qui m'a marqué plus qu'une autre m'a donné envie de me sentir plus puissant et de pouvoir faire quelque chose en cas d'attaque comme celle-ci, parce que je me suis dit que ce jour-là, s'il s'était passé la même chose à Tahiti, je n'aurais rien pu faire pour protéger ni ma famille, ni mes amis, ni les personnes, les civils autour de moi. En fait, je n'avais aucun pouvoir sur ces événements, je n'avais aucun pouvoir sur les événements passés, sur celui qui venait de se passer à Paris, je n'avais aucun pouvoir sur ceux qui auraient pu se passer dans le futur, parce que je n'étais pas préparé à ça, je n'étais pas formé à ça. Et donc pour moi, la seule solution qui existait à ce moment-là, c'était soit de devenir un infirmier, soit de devenir une personne du corps médical, soit de faire partie des gendarmes, donc de l'armée en fait. En gros, soit d'être quelqu'un qui aurait pu sauver des blessés après qu'ils étaient blessés, soit d'être quelqu'un qui pouvait prévenir potentiellement une attaque comme celle-ci, ou une attaque moins grave, mais en tout cas d'avoir un impact pour sauver la vie de certaines personnes en cas d'attaque comme celle-ci ou en cas d'attaque en cas de dégâts causés par une attaque. Et donc moi, à ce moment-là, évidemment, j'ai choisi, vous vous en doutez, la voie de la gendarmerie, parce que je me voyais mal être, j'avais plutôt envie de faire de la prévention que du soin. En fait, je sais pas, ça me paraissait plus intuitif pour moi. Et surtout, la gendarmerie, c'est un milieu qui m'intéressait. D'ailleurs, à ce moment-là, pourquoi gendarmerie, vous vous demandez peut-être. En fait, à ce moment-là, je connaissais pas la différence entre la gendarmerie et la police. J'ai compris, évidemment, quelques années plus tard, que la gendarmerie était liée à l'armée. La gendarmerie, c'est l'armée. Les gendarmes sont des militaires, alors que les policiers ne le sont pas. Et la gendarmerie est reliée au ministère, est reliée à l'armée de terre, en fait. Donc, je sais pas pourquoi, mais ce milieu militaire m'attirait plus, et j'ai fait le choix plutôt de rejoindre la réserve de la gendarmerie plus que la réserve de la police. Alors je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas j'ai préféré m'engager pour la gendarmerie quelques années plus tard. Et je précise que ça s'est pas passé immédiatement parce qu'évidemment, en novembre 2015, moi je suis de 98, je n'avais pas l'âge pour être gendarme réserviste, je n'étais pas majeur. Et donc je me souviens que ça s'est passé lorsque moi j'étais en première. Ensuite, je suis allé, donc j'ai passé mes épreuves de français, etc. Voilà, j'obtiens mon bac également l'année d'après. Et cette idée, quand même, reste dans ma tête. Et c'est vraiment ça, l'élément déclencheur, c'était ces attentats de Paris en 2015. Ensuite, je me souviens que donc je passe mon bac, j'obtiens mon bac et je choisis d'aller en faculté de droit. Et cette idée était toujours en tête. Cette idée de rejoindre la gendarmerie était toujours en tête. Et entre ce moment-là de novembre 2015 et l'obtention de mon bac et mon inscription à la fac de droit, j'ai regardé tous les reportages sur YouTube. Tous les reportages sur la gendarmerie, sur la réserve de la gendarmerie et même sur le métier d'officier de gendarmerie, et également même des reportages sur le GIGN et les groupes d'élite, les groupes d'assaut qui sont les personnes les plus qualifiées pour répondre à des attaques terroristes comme le GIGN par exemple pour la gendarmerie ou le RAID pour la police. Tous ces reportages me fascinaient et je les ai tous regardés sur YouTube et j'ai commencé à avoir une vraie obsession pour ça. Et d'ailleurs, lorsque j'étais au lycée, c'était une des premières fois que j'avais une obsession pour une activité comme celle-ci, pour une idée. En fait, c'était la première fois que j'étais obstiné par une idée aussi longtemps que ça, en fait, parce que je vous l'ai peut-être déjà dit dans d'autres podcasts, mais j'étais quelqu'un d'extrêmement indécis lorsque j'étais au lycée, et j'avais parfois une idée de faire quelque chose que j'abandonnais quelques jours plus tard. J'avais parfois un projet que j'abandonnais, voilà, le projet mourait dans l'œuf, et en fait, j'avais jamais eu de la, on va dire, de la régularité dans quoi que ce soit. Et ça m'a fait plaisir déjà. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que peut-être cette idée de devenir gendarme réserviste était la bonne, en tout cas était une bonne idée, parce que c'était la première fois qu'une idée était restée en tête plus d'un an dans ma tête, et même plus de 6 mois ou même plus de 3 mois en fait. Cette idée, même si j'avais passé mon bac et que j'avais repris ma vie normale, on va dire, de lycéen, et que je n'avais pas pu forcément, évidemment, m'engager dans la réserve entre deux, j'avais toujours cette idée en tête. Et même lorsque je me suis inscrit en fac de droit, c'était pas forcément pour devenir avocat, comme beaucoup d'étudiants en droit, c'était pour devenir officier de gendarmerie, parce que je savais que l'on pouvait devenir officier de gendarmerie en étant à bac plus 5 en droit, et qu'on pouvait passer un concours pour directement être officier de gendarmerie et donc avoir déjà des responsabilités dans le milieu de la gendarmerie. Et donc je savais qu'en faisant du droit, ça allait peut-être m'ouvrir des portes pour ensuite être officier de gendarmerie, donc pour être lieutenant. C'est le grade par lequel on passe en premier lorsqu'on passe ce fameux concours qui s'appelle, il me semble, l'EOGN. Ça c'est l'école des officiers de gendarmerie nationale. Il y a un concours pour devenir officier de gendarmerie que l'on peut avoir lorsqu'on a un bac plus 5 en droit notamment. Voilà, donc pour vous remettre dans le contexte, j'entre en fac de droit, j'ai 17 ans et demi, c'est à Tahiti, hein, toujours, j'ai rejoint la France seulement en L2 lorsque je suis arrivé à l'université de Caen. Et j'ai 17 ans et demi, je m'intéresse petit à petit au droit, je découvre la vie d'étudiant en droit comme beaucoup d'entre vous, si vous avez connu des études, notamment des études de droit, je me fais à ce petit monde, du monde de l'étudiant en droit. Et en novembre de cette année où j'étais en L1 droit, j'obtiens la majorité, je deviens majeur et je commence à comprendre que, enfin, je me rappelle que je peux donc devenir officier, enfin non pas officier, pas encore, je peux devenir gendarme réserviste, je peux m'inscrire à cette formation qui s'appelle la préparation militaire de la gendarmerie, la PMG, qui permet de devenir gendarme réserviste et qui dure 3 semaines. Et ça, c'est le deuxième chapitre de cette vidéo. Alors à ce moment-là, je viens d'avoir 18 ans et je viens de passer mes examens en droit qui ont lieu à Tahiti en décembre, et simplement en décembre, seulement en décembre, parce que dans d'autres facs, notamment la fac de Caen où j'ai fait beaucoup d'examens, il y a des examens en décembre et en janvier, alors qu'à Tahiti, simplement en décembre. Donc, je sais que j'ai environ un mois de vacances, parce qu'à Tahiti également, les vacances de décembre, c'est des vacances assez longues, on a un mois de vacances, et donc je prends conscience que j'ai le temps de potentiellement devenir gendarme réserviste durant les vacances de décembre, juste avant de commencer le deuxième semestre de ma fac de droit. Surtout qu'il y a une formation dont je vous ai parlé qui s'appelle la PMG, la préparation militaire gendarmerie, qui dure entre 2 et 3 semaines en fonction des centres de formation et qui a lieu deux fois dans l'année à Tahiti, donc en décembre et en juin il me semble. Il y a une formation l'hiver et une formation l'été. Et donc à ce moment-là, les étoiles commencent à s'aligner parce que je suis majeur, j'ai du temps pour moi et il y a une préparation qui se prépare, il y a une formation qui se prépare en décembre et donc je postule. Tout simplement, je dépose mon dossier dans un endroit qui gérait en gros la partie administrative de la gendarmerie. Enfin, c'était pas le lieu où je suis pas allé dans un poste pour l'endroit où tu portes plainte ou l'endroit où tu déclares quelque chose que tu as perdu ou un vol, etc. Je suis allé directement dans un endroit. Je sais plus si ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le haut commissariat, quelque chose comme ça, où tu déposes tes dossiers dans lesquels tu peux postuler pour devenir gendarme réserviste. Je dépose mon dossier, je prépare ma lettre de motivation, je donne toutes mes informations, etc. pour être potentiellement recruté. Et je prends conscience qu'il y a quand même beaucoup de demandes, parce que à la fin, il y a une trentaine de places pour, en général, 60-80 demandes. Et à Tahiti, c'était le cas. Il y avait beaucoup de demandes pour seulement 30 places. Donc je prends conscience qu'il va y avoir une sélection. Et donc si même le fait de déposer mon dossier ne suffisait pas. Et donc je me rappelle que les prochaines semaines, les semaines qui ont suivi, j'ai eu des tests. J'ai eu des tests médicaux dans une ville à Tahiti qui s'appelle Harue, donc où je pars carrément dans un endroit où il y a que des militaires en fait. Je vais dans un centre militaire où il y a donc le parcours du combattant, etc. Enfin, c'est vraiment un endroit où il y a que des militaires et je me fais inspecter, c'est-à-dire que on inspecte mon ouïe, on inspecte ma vue, on inspecte ma santé de manière générale, on voit si j'ai pas des problèmes de santé qui pourraient m'empêcher ensuite d'exercer le métier. Il y a aussi des tests psychologiques où je me fais interroger sur plein de questions sur ta personnalité pour comprendre si tu es capable de vivre en groupe, parce qu'évidemment, et on va y venir, il y a une grande partie de vie en caserne lorsque tu es gendarme, et un peu moins lorsque tu es gendarme réserviste, mais quand même, il y a quand même ce truc de vivre en groupe et ce truc d'être capable de vivre socialement bien dans un groupe et de pas poser problème dans un groupe et avec une hiérarchie aussi. Il y avait beaucoup de questions sur l'autorité notamment parce que c'est forcément une facette importante de ce métier, c'est la gestion de l'autorité, la gestion des classes, la gestion de la hiérarchie et des grades qui sont très importants, comme celui-ci par exemple que je tiens et qui est celui qui a un grade de commandant, celui-ci, vous voyez avec ces quatre bandeaux blancs qui m'ont été donnés justement par le commandant de cette formation. Et je vous avais raconté déjà cette anecdote, il me semble, j'y reviendrai plus tard parce que ça fait partie plutôt de la fin de cette formation de gendarme réserviste. Mais bref, je me suis retrouvé avec ce grade de commandant. Et par exemple, ce grade, si tu crois ça dans la gendarmerie, tu as plutôt intérêt à respecter la personne qui a ce grade. Il y a toute une notion de respecter les personnes qui ont des grades supérieurs à toi dans la gendarmerie, et la personne qui a le grade le plus haut devient la personne qui a l'autorité dans une pièce, par exemple. Donc si t'es major et que c'est toi qui as l'autorité dans une pièce, par exemple, dans laquelle tu enseignes et qu'un commandant arrive, le major doit faire le geste de salut au gendarme qui a un grade plus haut, etc. Donc voilà, il y a toute une notion d'autorité, de hiérarchie, et j'y reviendrai plus tard parce que c'est un point que j'aimais beaucoup au début et moins maintenant, donc j'y reviendrai. Mais en tout cas, je commence à découvrir ça, à découvrir la notion de vie militaire qui est complètement différente de la notion de la vie civile. C'est pas du tout les mêmes, on va dire, la même façon de vivre. Et donc voilà, je fais mes tests psychologiques, médicaux, comme les footballeurs qui font leur lorsqu'ils vont dans un nouveau club là, qui passent leurs examens, où tu les vois avec des électrodes un peu partout et qu'ils doivent courir, etc. Enfin bref, j'ai plein de tests comme ça qui sont faits. Je suis apte à être pris, enfin je suis apte psychologiquement et sportivement, j'ai les compétences qu'il faut, et donc je continue mon bout de chemin. Je me rappelle que je passe mes examens et puis je reste chez moi, j'attends d'avoir des nouvelles, et je suis convoqué donc un jour où je vais encore repasser des examens psychologiques, mais d'un autre niveau, on va dire, qu'ils vont tester plutôt d'autres choses. Je me souviens plus exactement du test, du quiz qu'il y avait, mais voilà, c'était assez rapide, une soixantaine de questions ou une quarantaine de questions à répondre. Et puis je rentre chez moi, et puis quelques jours plus tard, je reçois la nouvelle comme quoi je suis sélectionné pour cette formation pour devenir gendarme réserviste. Donc évidemment, je suis super content et je sais que je vais intégrer cette formation de décembre et qu'on est environ une trentaine de recrutés et que la formation commence dans les prochaines semaines. Donc il faut préparer son sac, il faut préparer ses affaires parce qu'on va sortir de chez soi, évidemment, on va dormir directement à la caserne pendant les quelques semaines de formation, à Tahiti en l'occurrence. Et donc je prépare mes affaires. Mes parents sont un petit peu surpris, même s'ils connaissaient évidemment mes intentions et ils savaient que c'était quelque chose qui m'intéressait. Moi, j'ai jamais vraiment quitté la maison autant de temps, sauf pour faire des compétitions de sport, mais c'était plutôt un week-end ou ouais, maximum une semaine, mais rarement deux semaines, et encore moins pour partir vivre en caserne, qui est une vie qu'on connaît assez peu, nous dans la famille où on est plutôt des fonctionnaires, donc des professeurs. Je crois qu'il y a un gendarme dans ma famille du côté de mon père, mais c'est tout, donc on connaît assez mal la vie militaire dans la famille, et donc forcément c'est un petit peu nouveau. Mais voilà, je prépare mes affaires, je vais chez le coiffeur, parce qu'à ce moment-là j'avais les cheveux très très longs à Tahiti, un peu style surfeur blond, voilà, qui a les cheveux très longs, enfin longs en tout cas, et je vais chez le coiffeur, je me fais ma coupe militaire, je suis content. Ma mère beaucoup moins, maman était beaucoup moins beaucoup moins ravie de cette nouvelle coupe. Moi j'étais content, c'était un peu nouveau pour moi, notamment parce que à ce moment-là, faut comprendre que je suis l'adolescent typique. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, le jour des attentats, moi je voulais jouer aux jeux vidéo et c'est tout. J'avais pas pris conscience de quoi que ce soit et ma priorité à ce moment-là, ce que je voulais à ce moment-là, c'était avoir une copine et jouer aux jeux vidéo avec les potes et surtout ne pas penser à l'école, ne pas penser aux cours, ne pas penser aux révisions, ne pas penser à quelque examen que je passe. Alors évidemment, à ce moment-là, je suis en première année de droit, donc j'ai un petit peu mûri, mais quand même, je suis quand même un enfant qui a connu assez peu de choses difficiles à ce moment-là, qui a connu une rupture amoureuse à son actif et qui a connu un petit peu de douleur à la salle de sport parce que je me suis inscrit à la salle de sport à ce moment-là. C'était mes débuts à la salle de sport. Et donc voilà, j'ai connu un petit peu de choses dans ma vie, mais quand même assez peu. Rien de qui peut s'apparenter à la vie en caserne. Et d'ailleurs, j'ai assez peu vécu en groupe parce que j'avais toujours des groupes d'amis, mais assez restreints, de 3 à 5 personnes. J'ai fait quelques soirées, mais voilà, je suis pas habitué à la vie en groupe. Je suis pas habitué à la vie avec plusieurs membres dans la famille parce que moi, j'ai qu'une petite sœur et donc je connais pas les familles nombreuses. Enfin, j'ai jamais vécu dans une famille nombreuse. Donc, c'était nouveau pour moi, beaucoup de choses de nouveau, mais je suis content. Beaucoup de choses nouvelles, pardon, je me reprends sur la phrase d'avant, beaucoup de choses nouvelles, mais je suis content quand même, je suis content parce que vous l'avez compris maintenant, c'était une obsession pour moi la gendarmerie, et j'avais qu'une seule envie, c'était de porter le polo bleu de la gendarmerie, et d'ailleurs à ce moment-là, je me rappelle qu'on devait envoyer nos mensurations pour avoir tout l'équipage, tout l'équipement qui est propre aux gendarmes, donc intégral avec les polos gendarmerie, les pantalons militaires aussi, les pantalons de treillis, tous les accessoires également qui vont avec. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que c'est fait sur mesure. Donc on a demandé, à ce moment-là, je reçois une lettre qui me demande mes mensurations, bras, poitrine, jambes, je ne sais plus, pointure pour les chaussures, pour les Rangers, enfin l'équivalent des Rangers. Et voilà, donc je prépare tout, j'envoie toutes mes mensurations et je commence à préparer mes affaires pour le premier jour en caserne. À ce moment-là, je me rappelle que j'étais très excité la veille du départ à la gendarmerie. C'était tellement nouveau pour moi et tellement concret pour la première fois de ma vie parce que c'était la première fois que je m'engageais vraiment dans quelque chose et que je tenais mes engagements, donc très nouveau pour moi. J'arrive le premier jour et je me rends compte qu'on est environ donc une trentaine de personnes, on a tous nos affaires, et je me rends compte évidemment que je suis le plus jeune de la promotion, parce que je venais d'avoir 18 ans, donc c'était pas possible d'être plus jeune que moi à ce moment-là, surtout qu'à ce moment-là, Tahiti, j'étais pas très développé physiquement, je faisais pas très adulte comme personne en fait, et ça se voit très vite que en fait je suis vraiment le Benjamin du groupe, et je remarque déjà ça, que je suis vraiment jeune par rapport aux personnes qui sont présentes, qui ont toutes entre 20 et 35 ans, qui parfois sont des parents en fait, déjà des pères et mères de famille, et donc je suis vraiment le petit du groupe en fait, et aussi je suis le seul popa. Donc à Tahiti, les popas, c'est les Français qui sont mutés en France, qui sont mutés à Tahiti, c'est les personnes qui sont mutées comme les enfants des parents qui sont mutés par exemple, et donc on appelle ça à Tahiti des popas. C'est pas négatif, c'est simplement pour nous appeler d'un nom, en fait. C'est pour définir, mais pour, on pourrait dire en français que ce sont les expatriés, en fait. Donc voilà, je me rends compte de ça, et c'est un peu nouveau pour moi aussi, parce que au lycée dans lequel j'étais, avant, par exemple, il y avait en général 30% de Popa ou 40% de Popa dans certaines classes, et puis 60% de Tahitiens, ou alors des personnes qui sont nées en France mais qui, ou qui sont nées à Tahiti mais qui ont des personnes de famille française, on va dire de France, enfin de qui sont pas qui ont pas des origines tahitiennes forcément. Et donc à ce moment-là c'est nouveau pour moi, en fait. C'est vraiment nouveau, mais ça me dérange pas. J'avais juste peur d'être moins facile que ce soit moins simple pour moi de m'intégrer, parce que déjà que j'avais pas connu beaucoup la vie en groupe, j'avais peur que je sois pas accepté dans le groupe aussi facilement que j'ai pu être accepté par exemple dans les familles, dans les salles de classe dans les classes dans lesquelles j'étais au cours de mon lycée. Mais ça, en fait, pas du tout, ça s'est extrêmement bien passé. Les Tahitiens étaient extrêmement accueillants avec moi et j'étais très vite accepté dans le groupe. Donc je me rappelle, voilà, que j'arrive dans cette on se met en file d'attente, on se fait déjà engueuler, enfin certaines personnes se font engueuler parce qu'elles sont arrivées à 6h01 au lieu de 6h, et c'est la première fois que le major de la formation arrive. Et c'est important à ce moment-là que je vous parle des deux personnes qu'on a le plus vues au cours de cette formation, qu'on va pas citer. Je sais pas si j'ai le droit de les citer, en tout cas de citer leur nom de famille, mais donc dites-vous qu'il y a deux personnes qui sont chargées de notre formation. Il y a un major, c'est pas le major général, c'est un major, c'est le grade de major, un major et un commandant, qui est donc le commandant qui m'a donné ensuite ce grade pour la raison que je vous expliquerai plus tard. Mais donc, à ce moment-là, on se fait déjà engueuler par le major parce qu'une personne arrive à 6h01 au lieu de 6h et nous dit cette phrase dont je me souviens encore aujourd'hui, qui est que être à l'heure, c'est déjà être en retard. Arriver à l'heure, c'est déjà arriver en retard. Et ça me fait cogiter. Je me dis, ok, on est déjà dans l'ambiance militaire, très bien. Je suis venu pour ça, de toute façon. J'étais un petit peu l'ado feignant de base qui a pas d'ambition, qui a envie de rien faire à part jouer aux jeux vidéo. Et j'avais l'impression d'être dans l'émission les personnes là qui se font un petit peu remettre droit par les militaires là, donc comme Marius, enfin je sais plus le nom des émissions, mais vous voyez un peu le genre. J'avais vraiment l'impression d'être l'adolescent de base qui va se faire bien remettre en place par toute la vie militaire. Et donc ça commence à ce moment-là. Évidemment, c'était pas moi qui est arrivé en retard, j'ai pris quand même mes responsabilités, mais on comprend tout de suite que si une personne se fait engueuler, tout le groupe prend pour la personne. Et ça va être un élément très important au cours de cette formation. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Premier jour, donc on arrive, on se fait un petit peu engueuler au début, mais je pense que ça fait partie de l'ambiance générale, enfin ça fait partie de l'expérience de devenir gendarme réserviste. On rentre dans la caserne, on dit au revoir aux parents, ou aux personnes qui nous déposaient en fait, hein. et on arrive dans la salle de classe, donc qui va être la salle de classe dans laquelle on va passer énormément de temps, parce que pour vous dire, une journée type en tant que gendarme réserviste qui est formé, donc qui se fait former au cours d'une PMG, c'était beaucoup de cours où on est assis, un petit peu comme un cours au lycée en fait, où on, je crois que c'était les cours donc de ça devait être de 7h à 11h ou de 7h à midi. Ensuite déjeuner, et puis ensuite une deuxième session de cours de 13h à 16h ou de 13h à 17h, je sais plus. Et puis voilà, il y a plein de matières différentes. C'est pas du français, c'est pas des maths, mais c'est par exemple de l'histoire de la gendarmerie, ou c'est un cours de self-défense, ou c'est un cours d'utilisation des armes, donc à quel moment on peut utiliser telle arme, ou également les différentes classifications des armes, parce qu'il y a plein d'armes différentes et qui sont toutes classifiées en fonction de leur dangerosité. Il y a des cours, donc comme je vous l'ai dit, d'histoire de la gendarmerie, il y a des cours de sécurité routière. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de cours différents qui nous montrent tout ce que peut faire un gendarme, en fait. Parce que nous, les civils, lorsque on ne connaît pas le milieu militaire, pour nous, les gendarmes, ils font qu'une seule chose, c'est nous enlever des points de notre permis en étant sur les routes et en vérifiant qu'on n'a pas bu, on n'a pas bu trop d'alcool, ou qu'on n'est pas en excès de vitesse sur la route. Ça, c'est la vision très civile, très civiliste des gendarmes que l'on peut avoir lorsque on ne connaît pas le milieu, en fait. Parce qu'on se rend compte qu'ils ont énormément de missions différentes, et que ça, la sécurité routière, ça représente qu'une seule partie de l'infinité d'actions que l'on peut faire au cours d'une journée. Et donc moi, je prends conscience de ça. Je prends conscience de tout ce qu'on peut faire lorsqu'on est gendarme, et on est formé, forcément, on a des cours. Et la première surprise que j'ai, c'est qu'il y a assez peu de sport, en fait. Faut vous dire aussi que c'est important que je le précise, il n'y avait pas une ambiance très... Au début, on n'était pas très serein, en fait, parce que déjà, le premier jour, il y a 4 personnes qui se sont fait sortir, en fait. C'est pas une formation où, si tu acceptais le premier jour, tu es sûr d'être gendarme réserviste à la fin. C'est un petit peu Koh-Lanta quand même. À certaines périodes de la formation, tu te dis que tu es un petit peu à Koh-Lanta et que tu peux te faire sortir, en fait. Il y a des choses qui sont éliminatoires au cours de la formation. Et par exemple, il y a des personnes qui ont reçu le premier jour les résultats du test psychologique qu'on avait passé les quelques jours avant. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais vous savez, le deuxième test psychologique que j'ai passé, je crois que ça s'est passé que quelques jours avant le début de la formation, et les résultats sont arrivés quelques jours après, et c'était le premier jour de la formation. Et donc, les personnes qui n'ont pas réussi le test psychologique se sont faites dégager dès le premier jour, alors qu'elles étaient venues et qu'elles pensaient rester plusieurs semaines. Donc ça, c'est pas forcément idéal comme situation, ça peut faire un petit peu salaud comme ça, mais je pense que ça fait peut-être partie de l'expérience, ou alors c'est juste mal tombé et les résultats sont tombés peut-être un petit peu plus tard que prévu. Mais quoi qu'il en soit, le premier jour, on était plus 30, on était 26 ou quelque chose comme ça, on est passé de 28 à 24 ou voilà, mais il y a 4 personnes qui sont parties, et donc ça mettait une ambiance un petit peu de... on était un petit peu moins serein, on savait pas forcément ce qui était éliminatoire et on faisait attention de ne pas faire de choses donc qui auraient pu plus tard nous éliminer. Donc le premier jour se passe assez bien, c'est assez facile, c'est un petit peu comme la rentrée des classes où on nous montre le lieu où on va manger, la cantine, les dortoirs, donc il y a forcément deux grands dortoirs, un dortoir pour les garçons, un dortoir pour les filles. Il me semble que sur les 25 personnes ou les 30 personnes, il y avait 5-6 filles et le reste c'était des garçons, donc un grand dortoir pour les garçons et un dortoir pour les filles qui sont donc plus loin que nous dans le dortoir. On nous montre donc l'endroit où on a les douches, donc forcément il n'y a pas toujours de l'eau chaude, hein. Enfin c'est pas le luxe, c'est pas le confort, et j'étais venu encore une fois pour ça, donc je découvre tout ça, je découvre les douches, je découvre l'endroit où on se brosse les dents, et c'était vraiment comme un internat, en fait. C'était un lavabo commun pour plein de personnes, où en fait je sais pas comment définir, mais c'est pas, tu sens que t'es pas chez toi, en fait. T'es pas dans un milieu civil, t'es dans un milieu militaire, et moi en fait j'aime bien l'ambiance, déjà parce que je la connaissais un petit peu avec tous les reportages que j'avais vus, et puis surtout c'est nouveau pour moi et je découvre ça. Donc voilà, on fait le tour, la cantine, la piste, l'endroit où résident, on va dire, les gendarmes mobiles qui sont là que quelques mois, qui sont là pour des missions dans différents dom-toms et dans la France de manière générale. Et voilà, on fait les présentations aussi avec les deux personnes qui vont s'occuper de nous, donc le major et le commandant. Moi, j'essaie de repérer un petit peu les personnes autour de moi, de reconnaître un petit peu les noms, enfin de me souvenir des noms pour vite me faire accepter dans le groupe. Je suis désigné aussi président du groupe des garçons, parce qu'en fait la tradition c'est que on désigne président la personne la plus jeune du groupe et président également, enfin coprésident la personne la plus jeune du groupe et coprésident la personne la plus âgée du groupe. Donc moi évidemment je suis le plus jeune et la personne la plus âgée c'est une fille, une marathonienne qui s'appelle Rose, qui est donc désignée également présidente, coprésidente du coup avec moi du groupe. Donc elle représente les intérêts des filles et moi je représente les intérêts des garçons, enfin du groupe en général. Et donc le soir à chaque fois on a un compte rendu de tout ce que les personnes de la promotion, de la formation ont ressenti, ce qu'on peut améliorer, etc. Et puis si le commandant et le major ont des ordres à faire passer ou des consignes à faire passer, ils passent par nous, et nous ensuite, lorsque l'on rentre dans les dortoirs, c'est à nous de faire passer, de transmettre les messages, en fait. Ce qui est marrant pour moi, parce qu'évidemment, comme je suis le plus jeune et que je dois m'adresser à des Tahitiens qui font pour la plupart 90 kilos pour 1m95, ça me fait rire qu'ils soient à mon écoute, et je commence à on va dire découvrir les avantages de l'autorité, parce qu'en fait c'était marrant, parce que comme j'étais le président du groupe et que eux aussi ils avaient compris qu'ils étaient dans un milieu militaire, ils m'écoutaient tous très bien, en fait. Et c'est marrant parce que c'est pas comme ça dans une classe par exemple, enfin, on était vraiment dans un endroit où on respectait l'autorité, et c'était assez intéressant de voir ça. Et même je pense que même s'ils n'avaient pas aussi peur de l'autorité comme c'était notre cas au début, je pense qu'ils auraient été aussi à mon écoute, parce que tout simplement ils étaient, comme je l'ai dit, très accueillants. Et voilà, c'était marrant, tout simplement. Il n'y avait pas de... j'étais pas leur supérieur non plus, enfin c'était juste j'étais le délégué de la classe, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc pour vous dire que le premier jour c'est bien bien passé, j'étais content de l'ambiance et voilà, ça s'est très bien passé avec le groupe. Je me sentais bien dans le dortoir, bizarrement, même si j'avais pas connu de vie à commune ou de vie à plusieurs, bah on avait tous notre petit lit, une place qui était pas très confortable mais qui était ce qu'il est, et voilà, on avait tous un espace pour nous, on pouvait poser nos équipements, etc. Donc c'était assez bien. Jusqu'au réveil. Le réveil à 5h du matin, évidemment c'est la tradition, les journées commencent à 5h du matin, s'ensuit un footing matinal avec l'équipe et s'ensuit donc ensuite le petit déjeuner, et puis on arrive en salle de classe vers 7h ou 8h, je ne sais plus exactement, mais donc je prends un petit peu la routine, je m'adapte un petit peu à la routine matinale. Évidemment c'était la première fois que je me levais à 5h du matin, c'était une découverte mais c'était agréable pour moi, j'étais venu encore une fois pour ça, donc ça montre aussi, je pense, si je peux faire une petite digression, que faire des efforts, ça ne pose pas de problème tant que l'on sait pourquoi on le fait, en fait, et si on est volontaire aussi pour le faire, parce que typiquement, se lever à 5h du matin, prendre des douches froides, parce que l'eau n'est pas toujours chaude dans les douches de la gendarmerie, enfin dans les douches dans lesquelles on était en tout cas, toutes ces choses-là, la discipline aussi que ça demande de vivre tout le temps en groupe, de faire tout en groupe. Je vais y revenir plus tard aussi parce qu'il y a eu plusieurs moments où vivre en groupe, ça a été plus compliqué et dans lesquels on a pris tous cher à cause d'une seule personne. J'y reviendrai. Toutes ces choses-là étaient justifiées par nous, notre engagement en fait. Et donc le fait que l'on soit engagé et que le fait qu'on ait envie de le faire et qu'on soit venu pour ça, en fait, tout se passait bien. Se lever tôt, se coucher tôt, faire le lit le matin, courir ensemble, faire tout ensemble, ne pas se plaindre, ne pas essayer de gâcher l'ambiance du groupe, réviser, apprendre chaque jour plein de choses, parce que chaque jour on apprenait vraiment plein de choses nouvelles, emmagasiner tout ça. Bref, tout ça, c'était difficile, mais c'était justifié. Du coup, ça passait mieux. Donc, voilà, je découvre la vie de gendarme, enfin de gendarme, je découvre la vie militaire, la routine, je découvre le fait de vivre en groupe. Il me semble pas pouvoir appeler mes parents le soir, je crois que c'était, ou alors si seulement le soir de 21h à 22h, quelque chose comme ça, du coup je les appelle, je leur donne quelques nouvelles, ils sont contents, ils sont rassurés que ça se passe bien, mais voilà, c'était juste rapide comme ça. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur les journées en elles-mêmes, elles étaient toutes un petit peu différentes, on avait tous des cours différents, mais elles se ressemblent un petit peu toutes, jusqu'à un jour où on a eu la séance de sport avec les membres de l'antenne GIGN. Alors, comment dire, c'était, je pense, l'anecdote qui m'a le plus marqué de cette expérience. Il faut savoir que donc parmi la multitude de formateurs de cette formation, parmi toutes les personnes qui venaient nous parler, donc je sais pas, un major qui est spécialisé en sécurité routière, qui va nous expliquer comment arrêter une voiture, faire les bons gestes, mettre une voiture sur le bas-côté pour ne pas empêcher la circulation en même temps et pouvoir contrôler la personne. Bref, comment, dans quelles conditions peut-on sortir une arme et quelle arme également, comprendre la notion de légitime défense, comprendre des articles du code pénal, comprendre les responsabilités du gendarme, comprendre l'historique de la gendarmerie, bref, comprendre les grades aussi, connaître les différents grades pour pouvoir reconnaître une personne qui est plus haut gradée que nous, c'est important, il y a plein de choses à connaître, mais aussi parmi toutes les personnes qui pouvaient nous former, venaient également des personnes de l'antenne GIGN. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, on va dire, c'est l'équipe B du GIGN. C'est pas le GIGN, c'est pas le groupe d'élite qui peut venir, qui viendra en cas d'attentat en France par exemple, mais c'est des personnes qui sont formées par le GIGN, mais qui sont disposés un petit peu dans toute la France. Le GIGN n'est que dans un seul endroit de la France, vers Paris, pour pouvoir être le plus mobile possible et pour pouvoir arriver n'importe où le plus rapidement possible. Mais l'antenne GIGN, il y en a un petit peu partout en France. Je sais qu'il y en a à Orange, par exemple, Orange en France. Il y en a donc à Tahiti, dans les Dom-Tom, etc. Il me semble qu'il y en a 14 en tout dans la France et dans les Dom-Tom. Et donc voilà, c'est pas le GIGN, mais c'est quand même des sacrés gaillards. Je dis gaillards parce que je ne me semble pas avoir vu des femmes dans ce groupe, et donc voilà, je découvre ces personnes qui évidemment sont pas masquées à ce moment-là, mais ne dévoilent pas leur identité. Je me rends compte qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des profils Facebook, pas le droit d'apparaître sur Internet. Enfin bref, ça donne un côté très secret en fait. Parce que nous, encore plus notre génération, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais pour moi, lorsque je vais parler à une personne sur le lycée, au lycée par exemple, et que je me rends compte qu'elle a pas Facebook ou pas Instagram, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas en fait, et que je peux pas lui parler le soir par exemple. J'ai l'impression que ouais, ça va être difficile de créer un contact avec cette personne. Alors que là, en fait, toutes les personnes que je voyais de l'antenne GIGN étaient invisibles sur Internet. Et pour moi, dans ma génération assez connectée, bah c'est un petit peu bizarre. Mais donc voilà, ça ajoutait un petit côté mystérieux où en fait, on ne connaissait pas l'identité des personnes. Évidemment, on n'avait pas le droit de les prendre en photo. Évidemment, les portables étaient interdits, etc. dès que les personnes rentraient dans la pièce. Mais voilà, ça mettait une ambiance un petit peu différente. Et on avait, je pense, 6 instructeurs en tout de l'antenne GIGN qui venaient à tour de rôle et qui souvent venaient pour nous parler plutôt du tir. Et on apprenait à démonter une arme, nettoyer une arme, etc. Et on se préparait pour l'épreuve finale du tir qui serait une des dernières épreuves de la formation qui permettait de valider notre ESR, engagement à servir la réserve, que l'on peut signer seulement à la fin de la formation si l'on a réussi l'épreuve de tir, qui était pour moi une des épreuves les plus importantes et les plus stressantes aussi. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais donc voilà, on avait ces formateurs qui venaient, et parmi ces formateurs, il y avait des formateurs de l'antenne GIGN, et c'est eux également qui étaient occupés de nous faire les activités sportives. Et je me rappelle que cette séance de sport qui nous a été faite, qui nous a été proposée gracieusement par ces membres de l'antenne GIGN, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait qu'une par semaine. Il y avait plus de sport, il y avait moins de sport que ce que je pensais en fait. Mais ces deux séances, je me rappellerai toute ma vie parce que c'était les séances les plus dures que j'ai faites de ma vie. Et pourtant, je précise, j'avais quand même fait un petit peu de sport avant, je m'étais quand même buté pas mal de fois à la salle au cours desquels je m'étais inscrit à la salle de sport. Je m'étais quand même fait des séances assez hardcore, mais celle-ci, je m'en souviendrai toute ma vie. Pour vous donner l'exemple typique de la séance, c'était une épreuve qui, je pense, maintenant n'était pas éliminatoire, mais qui nous a été présentée comme une épreuve éliminatoire à ce moment-là. Et donc, pour vous donner le topo, pour vous faire un topo, il y avait derrière la salle de classe une montagne, tout simplement, une colline, mais quand même un endroit, non pas une colline, c'est quand même plus haut qu'une colline. À Tahiti, ben, forcément, vous vous en doutez, c'est une île, donc il n'y a que 20 ou 30% de l'île qui est habitable en fait, parce que sinon, c'est assez haut, c'est assez hostile pour y mettre des maisons. Enfin bref, il y a pas toute l'île qui est habitable, justement à cause du relief et justement à cause des hauteurs qui empêchent de construire. Et donc nous à Tahiti, il y avait derrière la caserne, il y avait je pense une grande pente qui, je ne sais pas à quel niveau était inclinée, mais en tout cas pour moi était quand même assez inclinée. C'est le genre de pente si tu devais faire cette pente en voiture, tu ne pourrais pas passer la seconde, tu ne pourrais pas te mettre en deuxième en fait, en deuxième vitesse. Tu serais obligé de rester en première tout le temps parce que la pente est tellement violente que tu pourrais pas te permettre de la passer en deuxième, pour vous donner un exemple pour les personnes qui ont le permis. Voilà, donc on voit ça et les instructeurs du GIGN, de l'antenne GIGN, nous disent, c'est simple, vous courez en groupe et si on vous rattrape, vous dégagez. C'est-à-dire que vous allez tous courir en groupe, vous devez atteindre le haut, qui est très haut, hein, je vous le dis, c'est pas juste un sprint de 50 mètres, c'est vraiment une longue, j'allais dire promenade, mais non, c'est une longue route, c'est une longue course qui nous attend, et vous devez tout le temps rester en groupe. Donc nous, on se dit, bon bah ça va, évidemment on était habitué à rester en groupe, enfin quand on apprenait la marche des gendarmes, on le faisait en groupe, quand on courait le matin, on le faisait en groupe, mais on a compris l'importance de rester en groupe plus tard dans la course. En fait, on commence la course et les instructeurs restent un petit peu derrière, évidemment nous laissent un petit peu d'avance et commencent à trottiner petit à petit pour nous mettre un petit peu la pression. Et c'est à ce moment-là que commence le problème parce que des personnes dans le groupe commencent à avoir des crampes. Je me souviens qu'il y avait donc une fille dans le groupe qui commence à avoir une crampe à un moment et on comprend que en fait c'est pas comme dans la vie, civile où parfois tu peux dire j'ai une crampe, allez-y courez, je vous rejoins plus tard ou je vous rejoins pas du tout. Là on devait garder la personne avec nous. Et donc on la met sur nos épaules à l'horizontale comme ça, donc un peu comme en fait on mettait un peu nos bras comme ça et on courait avec la personne qui était comme ça à l'horizontale sur nous, et forcément ça rajoute du poids et on comprend que ça va être beaucoup plus dur que prévu parce que en plus de la pente on va devoir porter aussi des personnes parce que au fur et à mesure je dirais toutes les 3 minutes, il y avait une personne qui commençait à abandonner ou avoir des crampes, parce que vraiment c'était un endroit, c'était assez difficile en fait. Et je parle même pas de toutes les fois où on devait s'arrêter. Parfois les instructeurs nous disaient stop, vous descendez de 30 mètres et vous remontez de 30 mètres, ou alors stop et vous faites des pompes dans le gravier. Donc je le précise même pas, mais ça faisait partie de l'expérience, ou des burpees, ou de la, vous savez, de le fait de ramper. On devait ramper aussi parfois et on l'avait fait juste avant de monter cette montée dans l'herbe. Et je savais pas à ce moment-là, mais l'herbe ça coupe très vite en fait. Quand tu rampes dans l'herbe, c'est con, mais t'as les bras complètement en sang après. Donc on avait tous les bras en sang, on devait parfois reculer, donc redescendre la montée et remonter cette montée, donc ça fatiguait. Les burpees, les pompes dans le gravier, on avait donc tous les avant-bras en sang et les mains complètement défoncées avec des graviers incrustés dans les mains, bref. Donc c'était pas évident, plus le fait qu'on devait porter les personnes sur le dos, et de plus en plus de personnes sur le dos, parce que je pense que sur les 25 personnes, sur les 20 personnes qu'on était, il y a peut-être 5 personnes qui ont abandonné, enfin qui étaient sur le point d'abandonner, qu'on devait porter en plus. Donc voilà, ça faisait des gros gilets lestés quand même qu'on devait porter sur le dos. Malgré tout ça, on arrive en haut, et je me souviens des derniers mètres qui m'ont énormément stressé, où tu avais les instructeurs qui étaient derrière et qui commençaient à accélérer en plus, les salopios, qui commençaient à nous courser de plus en plus vite, et ça m'a mis une pression de ouf. Je me suis pris au jeu, et il faut savoir qu'à ce moment-là, même si maintenant ça me paraît stupide, et je sais qu'on n'allait pas tous être éliminés si jamais ils nous rattrapaient, ce moment-là, je le prenais très au sérieux, parce que c'était vraiment une ambiance particulier en fait. Tu sais pas ce qu'ils ont le droit de faire en fait aux personnes qui ne respectent pas les consignes. Alors tu sais évidemment que bon, c'est la réserve de la gendarmerie, c'est pas l'élite, c'est pas le GIGN, donc évidemment qu'on va pas avoir des épreuves assez hardcore après, on va pas avoir de tir de confiance comme ça peut être le cas dans le GIGN, mais tu sais pas s'ils peuvent pas virer quelques personnes qu'ils ont jugées trop peu sportif par exemple. Tu sais pas s'il te rattrape, si tu vas pas recommencer depuis le début en fait. Tu sais pas tout ça, et tu sais pas où est-ce qu'ils ont le droit de te faire, s'ils ont le droit de te mettre des sanctions après, enfin bref. Et surtout le manque de sommeil aussi, parce que même si on dormait assez tôt vers 22h 23h, le réveil tous les jours à 5h, forcément tu as pas tes 8 heures de sommeil par nuit. Donc tout ça faisait que je prenais le jeu très au sérieux, et ce jour-là, j'avais eu quand même j'étais assez flippé qu'on se fasse rattraper par les instructeurs et qu'on ait ensuite des complications. Voilà. Donc en fait, tout s'est bien passé, évidemment. On est rentré après quand même en salle de classe, et on a retrouvé donc le commandant qui nous a accueillis à bras ouverts, qui était très content qu'on se soit tous fait bizuter. C'était un peu le bizutage classique, cette expérience de la montée de la colline. Par contre, c'est là où on s'est rendu compte que les instructeurs étaient assez énervés contre nous, parce qu'il y avait plusieurs fois où, je suis pas revenu dessus, mais il y avait parfois des membres du groupe qui n'ont pas respecté les consignes dans les différentes sessions de sport qu'on ait pu faire, ou sur le chemin même pour aller à l'épreuve, et ils nous ont mis plus cher que prévu, ils nous ont mis plus cher que les précédentes formations, c'est ce que nous a dit le commandant. Et par exemple, il était étonné qu'on ait tous les avant-bras en sang, parce que normalement ce truc de ramper, on le fait pas faire juste avant une épreuve comme ça, surtout pas dans les herbes hautes, pour un peu cisailler les avant-bras des personnes. Enfin bref, il était un petit peu surpris, il leur en a parlé quand même ensuite, parce que c'était pas prévu qu'on soit tous comme ça morts et défoncés et coupés, entaillés, non, pas déconner non plus, mais voilà, tous comme ça, c'était pas censé être aussi dur cette séance. Voilà. Donc le commandant leur a touché un mot ensuite, mais ça m'a quand même marqué comme moment, et c'était un moment assez fort qui, moi, enfant indiscipliné, non travailleur, non motivé, non ambitieux, m'a marqué. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à goûter à l'effort, et que j'ai commencé à trouver justement ce goût de l'effort. Et ça m'a, je pense, aidé plus tard dans ma vie, parce que à chaque fois je me disais ouais, réviser c'est compliqué, ouais, réviser c'est pénible, ouais, courir c'est pénible, mais ce sera toujours moins pénible et moins douloureux que ce que j'ai fait ce jour-là, lorsque j'ai fait cette montée pour devenir gendarme réserviste. Donc c'est resté un petit peu dans ma tête, et je pense que ça m'a permis de, ça a été un moment pour moi important dans ma vie, dans mon développement, pour comprendre que j'étais capable de faire des efforts, que j'étais capable d'être discipliné, d'avoir de la volonté, si j'étais dans le bon environnement et que je savais pourquoi j'étais en train de faire ce que j'étais en train de faire. Passons maintenant à l'année.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dot du tir. Je sais que c'est une partie qui vous intéresse sûrement depuis que j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. L'anecdote du tir, le moment clé de cette formation de gendarme réserviste, qui était pour moi un des moments piliers, encore une fois, avec cette séance de sport qui m'a marqué et qui m'a permis surtout de devenir gendarme réserviste parce que c'est une épreuve éliminatoire. Évidemment, celle-ci, faut pas se louper et c'est pas quelque chose que tu peux faire tous les jours. Déjà, de tirer, ça coûte cher de tirer, ça demande une organisation et surtout ça demande des compétences justement qu'on t'a enseigné les semaines d'avant, les jours et les semaines d'avant. On t'a appris les jours et les semaines d'avant à utiliser une arme, à monter, démonter une arme, et maintenant tu dois montrer que tu as bien retenu tous les enseignements de la formation. Donc c'est vraiment le moment phare en fait où tu es vraiment testé en conditions réelles, j'allais dire, mais non, c'est pas en conditions réelles, c'est jamais en conditions réelles le tir sportif, c'est plutôt pour tester un petit peu ton sang-froid, tester ta capacité à tirer, ta précision aussi, mais surtout ta capacité à restituer tous les enseignements que l'on t'a donné plutôt au cours de la formation. Donc je l'ai précisé un petit peu rapidement, mais je le refais quand même. Évidemment, on a eu des cours avant. Je me rappelle qu'on avait eu des cours donc pour la self-défense, pour comprendre dans quelles conditions on peut sortir l'arme. Mais ici, je parle plutôt des cours pratiques. En fait, on avait souvent des cours théoriques le matin et des cours pratiques le soir, où tu avais des gendarmes de l'antenne GIGN qui arrivaient et qui arrivaient avec des bacs, avec l'armurerie. En fait, c'était une énorme caisse bleue qui pesait hyper lourd, qu'on devait tous tracter comme ça dans la salle de classe parce qu'elle était hyper lourde, où tu avais donc des armes, où tu avais donc des munitions, et on t'apprenait donc à charger, décharger l'arme, à sécuriser ton tir, sécuriser ton arme, et puis pas la mettre à l'étui, ça c'est venu plus tard lorsqu'on avait déjà la formation de terminer. Mais voilà, les bases en fait du tir. Je me rappelle que ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup, évidemment, quand t'as fait de la sécurité routière toute la journée, t'es ravi le soir d'avoir une arme dans ta main pour pouvoir commencer à comprendre son fonctionnement, de pouvoir tenir quelque chose, de pouvoir te lever et poser des questions plus pratiques, on va dire. C'était même pas ma partie préférée, le tir et le fait de toucher à l'arme et de monter, démonter l'arme. Je me rappelle qu'on faisait des concours de vitesse avec les gars pour savoir qui montait le plus vite et démontait le plus vite l'arme, et j'étais jamais le plus rapide, voilà, donc c'était pas mon point fort, mais j'étais quand même content d'avoir ces cours du soir. C'est ça, les cours du soir à la gendarmerie, c'était les cours de montage et de démontage de l'arme. Et donc on est au jour J, le jour du tir, et je me rappelle qu'on devait tirer juste après l'antenne GIGN, parce qu'il faut comprendre qu'à Tahiti, encore plus, l'endroit où on tire, c'est pas, on tire pas n'importe où, on tire pas dans le jardin du voisin, hein. C'est vraiment une organisation, et donc c'est pas tous les jours que ça peut se faire. Et donc l'antenne GIGN s'était alignée avec nous pour pouvoir tirer avant nous, et donc qu'on fasse qu'un seul déplacement avec tout le monde. Sauf qu'évidemment, nous, on est une trentaine, l'antenne GIGN, ils étaient aussi une vingtaine, et donc c'est un convoi en fait qui était organisé. Je crois que j'avais pris quelques vidéos, si je les retrouve, je les mettrai à l'écran à ce moment-là. J'avais filmé discrètement le convoi avant de partir tirer, mais c'était vraiment un gros convoi. On n'est pas parti en Renault Scénic de la gendarmerie, hein. Non, c'est même pas drôle. On n'est pas parti en Mégane RS pour aller tirer. C'était vraiment des équipements militaires. Et moi, j'étais tout content, j'étais dedans, et je me sentais hyper puissant dans ces gros équipements militaires. Enfin bref, on arrive sur place, on fait 30-40 minutes de route, et on arrive dans une vallée. C'est incroyable comme endroit, c'est vraiment à la presqu'île de Tahiti, évidemment, on s'éloigne le plus possible de la ville, et donc on arrive dans cet endroit, parce qu'en France, en fait, je précise, mais normalement, en France, on tire en sous-sol, et c'est pas forcément... c'est souvent dans la caserne, en fait. Enfin, on n'est pas obligé de sortir de la caserne pour ça. À Tahiti, si, parce qu'il n'y a pas d'endroit pour tirer directement dans la caserne, en tout cas pas au moment où j'ai été formé. Donc on va dans une vallée qui est incroyable, que j'avais jamais vue, où c'est vraiment un espace immense, qui est... tout vert, où il y a de la nature tout autour, enfin, c'est vraiment tropical comme environnement, et surtout il y a cette vallée, une vallée qui on va dire qui crée de l'écho, parce que c'est comme si elle était faite pour augmenter le bruit, en fait. Elle est un peu en forme d'enceinte, justement, elle est un peu en forme, je ne saurais pas définir, j'ai encore quelques images, il me semble, de ce moment, parce que c'était hyper impressionnant, mais il faut savoir qu'on a tiré dans une vallée tropicale pour ce jour. Alors évidemment, il n'y avait pas des lianes, hein. Enfin, c'était pas non plus, on n'était pas chez Tarzan, tu vois, mais c'était quand même un endroit qui était assez ouvert, mais qui était très, très étonnant, que j'avais jamais vu avant, et donc dès que quelqu'un tirait, on entendait des bruits, enfin, ça résonnait dans tous les sens, c'était très impressionnant. Donc nous, on arrive, on voit l'antenne GGN tirer avant nous. Évidemment, là, c'est pas des tireurs du dimanche, en fait, hein. C'est des gens qui sont, c'est leur métier, c'est des professionnels, donc évidemment, ils tirent extrêmement bien, 10, 15, 20 mètres, 30 mètres. Parfois, ils ont même droit à faire des tirs fun à la fin, où ils vont tirer parfois de la main gauche, où ils vont tirer parfois de côté. Enfin bref, ils s'amusent un petit peu, c'est quand même leur métier, et ils sont très très forts. Et nous, on tire après. Alors évidemment, on est beaucoup moins serein, on a les mains qui tremblent un petit peu, surtout qu'on tire après forcément des professionnels. Et donc, on prépare les armes, on prépare les munitions. Moi en plus, je m'appelle Dossier, enfin c'est mon vrai prénom, c'est mon vrai nom Dossier, donc je suis dans le haut de la liste et je suis le premier appelé, il me semble. Donc j'arrive, on est 6, comme ça, il faut vous imaginer qu'il y a donc 6 cibles, il me semble. J'étais évidemment un des premiers à tirer, j'étais même le premier sur à gauche, je me rappelle. Et donc on est 6 et on a tous derrière nous un moniteur dans l'antenne GGN qui va nous donner des instructions et qui va nous donner aussi quelques conseils. Ça, c'est la chance qu'on avait, c'est qu'on avait quand même un moniteur par personne. Donc c'était assez cool d'avoir un professionnel juste derrière qui pouvait être là en cas de problème, mais qui pouvait être là aussi pour nous virer. C'est un petit peu à double tranchant, tu vois. Tu fais une erreur, tu sors. Et donc c'était bien, c'était réconfortant et en même temps c'était stressant, tu vois. Mais donc on se retrouve à donc avoir les cibles en face. On met le casque, évidemment le casque anti-bruit. On prépare les munitions, on charge. Et puis je me rappelle plus exactement des instructions de tir, mais c'était préparez-vous, tirez, et puis on tire, quoi. C'était en deux temps. Il y avait un moniteur qui nous disait quand tirer, quand relâcher l'arme, etc. Et il me semble qu'on a effectué en tout 20 tirs. Donc 10 tirs à 10 mètres et 10 tirs à 15 mètres, quelque chose comme ça. Donc c'était pas extrêmement loin. C'était avec une arme de poing aussi, c'était avec un Sig Sauer 2022 et un Beretta. On a passé deux certificats pour deux armes, donc encore aujourd'hui j'ai le certificat pour dire que je suis apte à tirer. Donc évidemment il n'est plus valable aujourd'hui, mais je l'avais à ce moment là avec deux armes. Et donc on tire, je me rappelle que ma première cible je l'ai loupée, je suis passé à côté, et après j'ai été beaucoup plus précis et je me suis fait engueuler. Ça me fait plaisir de vous raconter cette anecdote, me fait rire à chaque fois, mais je me suis fait engueuler par le moniteur derrière moi parce que je visais la tête tout le temps. Et c'est stupide, mais ça prouve à quel point j'étais déconnecté de la réalité, parce que moi, gros gamer que j'étais à ce moment-là et ayant joué des années à Call of Duty, j'ai shooté la tête, en fait. Je shootais la tête parce que dans les jeux vidéo, ça rapporte le plus de points. Mais c'est complètement con, en fait. C'est pas ce qu'on me demande à ce moment-là. Évidemment, le gendarme qui doit utiliser son arme, il ne tire pas dans la tête, il tire dans la côte. Et on peut se dire que parfois, pour ne pas blesser une personne, il faut tirer dans la jambe. Mais la jambe, ça peut être mortel. Alors que si on vise bien ici, vers la côte, normalement, on prévient les dégâts. Dans le sens, on ne peut pas vraiment tuer une personne comme ça. Donc en fait, on devait viser la côte. Et moi, comme un débile, je vois une cible. Je vois qu'il y a du rouge, du orange, du jaune. Je vise la tête. Et j'oublie complètement les consignes d'avant. Parce que j'étais focus sur la cible. Et mes années de jeux vidéo m'ont coûté quasiment une élimination. Parce que du coup, il m'a demandé ce que je faisais. Et j'ai répliqué que j'ai fait semblant que j'étais pas précis. En fait, à ce moment-là, j'ai fait semblant que j'avais manqué de précision. Mais quand il m'a dit qu'est-ce que tu fais, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je vise ailleurs, en fait, que je vise la côte. Donc en fait c'est marrant parce que, alors je sais plus si j'ai ma cible encore parce que je l'ai récupérée à la fin, mais donc on voit bien la différence entre les premières balles et les douilles d'après, en fait. On voit qu'au début, sur la première cible que j'ai faite avec une première arme, on voit qu'il y a beaucoup de headshots, il y a beaucoup de coups à la tête, et ensuite on voit que c'est un peu plus dans la côte. Et la deuxième cible que j'ai faite après avoir pris conscience de mon erreur, c'est quasiment tout dans la côte en fait. Donc voilà, c'était une petite anecdote qui me fait rire à chaque fois. Quand je l'ai raconté à mes potes, ils se sont foutus de ma gueule, mais voilà, c'était marrant, mais j'ai failli me faire éliminer aussi parce que une fois après avoir tiré, donc faut vous dire quand même que mine de rien, tirer 20 fois ou 40 fois avec cette arme, ça utilise l'épaule en fait, surtout quand t'es stressé et que tu tiens l'arme très fort dans tes mains pour pas faire de bêtises, t'as vite l'épaule en compote en fait, et donc à ce moment là je me rappelle que j'avais fait une erreur en tirant et en baissant mon arme, à la fin l'arme pointait ma jambe, donc grosse erreur aussi de débutant que j'avais faite qui m'a été reprochée immédiatement par le moniteur de l'antenne GIGN. Évidemment, si je refaisais l'erreur encore une fois, je sortais. Et donc moi, on m'a reproché ce moment-là où j'ai fait cette erreur de mettre l'arme sur le pied, de pointer le pied. C'est une erreur de débutant qui a été reprochée aussi à d'autres personnes. Et si je le refaisais une fois, c'était élimination. Donc, j'ai fait mes tirs. J'étais assez content. J'étais pas encore une fois le plus précis du groupe, mais j'étais dans le milieu du panier. Et j'ai récupéré ma cible, j'ai récupéré mes douilles et j'étais content. C'était le symbole de cette première expérience du tir, qui est aussi ma dernière en fait. Je n'ai plus jamais retiré depuis cette expérience. Ensuite, une fois que l'on a fini de tirer et de ramasser toutes les douilles, on rentre à la caserne, on nettoie les armes et on signe ce fameux contrat, l'ESR, l'engagement à servir la réserve, pour signifier la fin de cette formation et le début de notre vie de gendarme réserviste. Je voulais vous partager quelques anecdotes qui m'ont marqué au cours de cette formation, en dehors de toutes celles que j'ai racontées déjà avec le sport, avec le tir, il y avait quelques anecdotes qui m'ont marqué plus que d'autres. La première, c'était le jour où un mec s'est fait péter une dent au cours des cours de self-défense, parce que du coup on avait des cours aussi de self-défense qui étaient assez basiques, on apprenait à maîtriser un coude avec les mains, avec faire une saisie, emmener quelqu'un au sol, mettre les menottes aussi, ça c'était marrant, ça, j'y reviendrai plus tard, j'ai une anecdote là-dessus qui est assez ouf. Mais donc, j'avais retenu cette histoire du gars, ça m'avait marqué. On avait un cours avec les bâtons télescopiques de protection. Donc, je crois que ça s'appelle comme ça, BTP, à l'inverse du fallait pas confondre avec le BPT, avec le bâtiment. Comment ça s'appelle ça? Attends, je regarde juste. BTP. Pro-BTP. Les métiers du BTP. Voilà, c'est l'inverse. Moi, j'avais appelé ça le BTP, je m'étais fait corriger. En fait, c'est le BPT, bâton de protection télescopique. Donc, c'est la matraque, en fait. C'est le bâton qui se déplie, en fait, qui est assez petit lorsqu'il est non déplié. Et en fait, tu as juste à le sortir comme ça et à faire un geste qui te permet de le déplier. Enfin, bref. Donc, c'est le BPT, le bâton de protection télescopique, et on a forcément des cours pour nous apprendre à l'utiliser, parce que c'est pareil, c'est une responsabilité de gendarme de pouvoir, d'avoir ça sur son étui, de porter ça sur soi, et donc il faut savoir s'en servir. Et donc je me rappelle qu'on avait des sessions de self-défense où on avait donc des pads, donc des protections en fait en mousse, où tu peux donc tenir ça et toi tu peux t'entraîner à pouvoir l'utiliser et à pouvoir te défendre coup droit, revers, de côté, vers le bas, du haut vers le bas, etc. Bref, on a appris à l'utiliser et donc on tournait comme ça, donc personne qui attaque, personne qui défend, personne qui tient le pad et personne qui utilise le bâton. Et je me rappelle qu'à un moment, il y a eu un grand bruit, tu vois, il y a eu un moment où toute la tension s'est tournée vers quelque chose à ma droite, tu vois. Donc moi j'étais avec le bâton comme ça, je me retourne vers la droite et je vois qu'il y a tout le monde qui regarde vers le sol à ce moment-là. Et donc je sais pas, je regarde vers le sol aussi pour me demander ce qui se passe. Et tu vois un Tahitien, un des gars qui était présent, qui montre ses dents comme ça. Il pointe du doigt ses dents et je me rends compte qu'il manque bien un truc en effet, tu vois. Il manque une dent. Et c'était celle-ci en plus. C'était une des dents qui était ici, une des deux dents qu'on voit bien, que tout le monde voit, tu vois. C'est impossible de passer à côté. Et en fait, on comprend à ce moment-là que le gars qui s'occupait d'attaquer, donc il s'occupait de taper sur la protection, sur le pad en fait. Il avait mal visé, mal ajusté, et donc il avait frappé le mec directement dans les dents, et évidemment on n'avait pas de protège-dents, donc il lui avait pété la dent tout simplement, en deux. Donc c'est-à-dire qu'il restait quand même un bout de la dent, et on voyait qu'il manquait le deuxième bout quoi. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'on a dû donc rechercher la dent perdu dans les graviers, parce qu'on était dans les graviers, on s'était mis en extérieur évidemment. Et on s'est retrouvé à poser les équipements et à rechercher la dent du gars qui s'était fait péter sa dent, pour ensuite que les militaires de la gendarmerie, enfin les militaires de, ouais, les militaires qui sont les infirmiers, on va dire militaires, les médecins de l'armée, puissent lui remettre sa dent plus tard. Et ils ont réussi. Franchement, c'était très réussi. Les jours d'après, c'était comme neuf. Et j'étais impressionné parce que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse recoller une dent comme ça aussi facilement et que ce soit aussi clean après. Enfin bref, imagine un petit peu la scène. On pose tous les bâtons et on commence à chercher dans les graviers la dent du mec qui vient de se faire péter la dent par un gars qui n'était pas précis, tu vois. Il y avait des bourrins. Donc, je l'ai précisé un petit peu au début, mais il y avait quand même des gros bourrins dans la formation. Donc, c'est aussi pour ça que ça a pu se passer. Enfin bref, c'était une anecdote qui m'avait marqué. Ensuite, évidemment, on était tous en train de bien protéger avec les pads. Ça a fait un peu office de prévention, tu vois. Donc après, tu pouvais être sûr qu'on faisait gaffe à l'utilisation des bâtons et à bien se protéger, tu vois. Donc, première anecdote qui m'a marqué, l'anecdote du bâton télescopique de protection, du bâton de protection télescopique qui avait explosé la dent d'un des membres de la formation. Ensuite, je voulais te partager absolument l'anecdote du menottage de toute la promotion. En fait, ce qu'il faut comprendre, et je te l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est qu'on avait parfois des armes à manipuler, et donc on devait aller dans l'armurerie, prendre une énorme caisse bleue qui était hyper lourde, et la ramener dans la salle de cours pour pouvoir monter, démonter les armes, etc. Ce qu'on avait aussi, c'était des armes factices. Donc, on avait des menottes factices, on avait des armes factices également lorsqu'on faisait des simulations de stratégie, de tactique, où on avait parfois des pièces où on devait faire semblant d'intervenir dans une pièce et donc on n'avait pas se mettre des vraies armes à l'étui, tu vois, on prenait des armes factices. Et pareil, on avait des menottes pour l'entraînement pour nous permettre de menotter une personne de manière rapide et efficace. Et donc, c'était moi souvent, comme j'étais le président du groupe des garçons, c'était moi qui étais chargé de m'occuper de la surveillance, on va dire, de ces caisses à outils, de ces caisses à armes et de surtout de la caisse à menottes. Ça c'est un truc qui m'a fait rire parce que je me suis retrouvé à mettre ça sous mon lit. En fait, c'était moi qui devais toujours garder la caisse à menottes et je la mettais sous mon lit et j'avais 30 paires de menottes sous mon lit à chaque fois et ça m'a donné quelques idées pour la suite et tu vas vite comprendre. En fait, j'avais fait la petite blague juste avant un cours, vers la fin de la promotion, hein, je précise, de la formation, je précise, parce que comme je te l'avais dit en début de podcast, c'était pas toujours une ambiance hyper bon enfant qu'il y avait, surtout au début, on avait tous un petit peu peur de se faire éjecter. Faut savoir quand même qu'au bout de 10-15 jours, il y avait quand même une ambiance très bonne dans la promotion, avec notamment le commandant qui était chargé de la formation et le major. On s'entendait extrêmement bien avec tout le groupe. Franchement, je m'entendais extrêmement bien avec toute ma promotion. Il n'y avait aucune personne avec qui j'avais de l'animosité, c'était trop bien. Et pareil, le commandant et le major commençaient à s'attacher un petit peu à nous et nous aussi à eux, et vraiment il y avait une bonne ambiance. Ce qui explique ce que je vais faire juste ensuite. C'est important de préciser quand même pour comprendre un petit peu mieux le contexte dans lequel on était, qui était beaucoup plus familier. Ce que j'ai fait, c'est que comme on est en train de s'entraîner à mettre les menottes sans blesser les personnes, c'est aussi ça le but de menotter une personne sans lui faire du mal, parce qu'on peut vraiment briser un bras en fait, hein, en mettant des menottes, donc on a appris à mettre des menottes sans douleur et surtout de les mettre les plus rapidement possible. Et moi, j'ai donné le prétexte de l'entraînement, en gros j'ai pris à part des personnes de la promotion pour leur demander de tester juste de mettre des menottes pour l'entraînement, en fait, comme on avait parfois des interrogations ensuite sur ce qu'on avait appris. On nous apprenait des trucs le matin, on avait des cours le matin et l'après-midi on devait mettre en pratique. Ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir mangé à la pause déjeuner, je demandais à des personnes de la promotion de tester le menottage, en fait, pour leur dire en gros que je voulais juste m'entraîner, etc. Et donc je prenais à part des personnes de la promotion pour pas que ça se voit trop. Je leur disais vas-y viens dans le couloir, je vais juste m'entraîner à menotter la personne. Je vais m'entraîner à menotter au cas où il y ait une interro surprise juste après, en gros. Et donc je prenais la menotte et je menottais la personne à un poteau. Et je trouvais un canal, enfin un truc qui passait, je sais pas comment expliquer, il y avait plein de trucs. En fait, dans la gendarmerie, il y avait toujours un endroit où je pouvais me noter quelqu'un. Il y avait toujours un petit poteau, il y avait toujours une gouttière où je sais pas, moi je m'attachais à n'importe quoi. Et je me notais la personne, je revenais ensuite. Et j'ai réussi à faire ça avec, pas toute la promotion évidemment, mais avec 5-6 personnes en fait. Parce que tout le monde n'arrivait pas au même moment après manger. Et donc je me suis retrouvé à réussir à me noter 5-6 personnes de la promotion. Et je me rappelle qu'il y a le commandant qui arrive à ce moment-là et il voit il voit 5-6 personnes qui sont comme ça qui sont attachées à un poteau, à n'importe quoi, à un truc que j'ai pu trouver pour me noter la personne. Et il me demande c'est quoi ce bordel en fait, enfin il me demande à moi en plus comme c'est moi le président. Et je lui explique à ce moment-là que j'ai fait une petite blague et que je les ai attachés pour l'entraînement. Et il comprend que c'était une petite blague que j'ai faite comme ça. Il l'a pas du tout mal pris, et comme je l'ai dit, le contexte était beaucoup plus tranquille. Et donc j'ai démenoté les personnes que j'ai menottées. Et vous inquiétez pas, pour les personnes qui ont l'esprit revanchard, je me suis fait menoter moi-même plusieurs fois dans la suite de l'aventure à cause de ça, parce que j'avais déclenché du coup la haine de certaines personnes. Je me suis pris évidemment quelques retours de bâton, et je me suis fait moi-même menoter plusieurs fois dans la salle de cours, dans la salle pour aller déjeuner, etc. Enfin bref, voilà, c'était devenu en fait un running gag à la fin de la formation, où en fait dès qu'on pouvait accéder à la caisse à menottes, on essayait de menoter le plus rapidement possible une des personnes de la promotion. Et on s'est retrouvés tous au moins une fois menottés à un pilier, un poteau, n'importe quoi. On s'est retrouvés tous au moins menottés au moins une fois à notre insu. Ça, c'était l'anecdote du menottage. Ok, maintenant qu'on a parlé un petit peu des anecdotes qui m'ont marqué au cours de cette formation, je voulais vous parler un petit peu de l'après, de mes missions extérieures qui ont suivi mon engagement à servir la réserve, et donc de la réalité du terrain que j'ai connu au cours de mon expérience de gendarme réserviste. Donc je me rappelle que quelques semaines après avoir terminé ma formation de gendarme réserviste, je reçois mon paquetage avec tous mes équipements, donc pour être gendarme, donc les polos bleus, les équipements de sécurité routière, vous savez la veste bleue marine un petit peu plus foncée que l'on met lorsque on est à l'extérieur, et c'est un coupe-vent, je crois que ça s'appelle comme ça. Ensuite on avait donc les treillis, les pantalons militaires, les rangers, etc. Bref, je reçois mon équipement et je suis pour la première fois affecté à une gendarmerie, la gendarmerie de Faa pour ceux qui connaissent, pour les élections présidentielles de Tahiti à ce moment-là, parce que c'est un moment où il y a beaucoup de procurations qui sont effectuées, et donc il y a beaucoup de personnes qui viennent à la gendarmerie pour faire procuration. Et donc je suis affecté à l'accueil de la gendarmerie pour m'occuper notamment des procurations et puis des affaires classiques comme les vols, des personnes qui vont venir porter plainte, etc. Des personnes qui vont donner des objets qu'elles ont trouvés perdus sur la route ou dans la ville en question, des passeports, des permis de conduire, etc. Donc pas hyper intéressant, je vous avoue, les premières expériences que j'ai eues en tant que gendarme réserviste opérationnel, mais ça m'a rangé, je vous avoue, parce que la première chose que j'ai remarqué lorsque je suis sorti pour la première fois dans la rue en tant que gendarme réserviste, c'est que j'avais une arme chargée dans mon étui. J'avais une arme chargée qui pouvait tuer potentiellement, et qui aussi, surtout, pouvait être prise par quelqu'un. Et c'est ça qui me faisait le plus peur, c'était de bien surveiller mon arme. Et je me rappelle qu'au début, j'étais tellement occupé par faire gaffe à ce que personne ne soit dans mon dos, lorsque par exemple j'arrivais dans un endroit où il y avait une bagarre, lorsque on avait des choses à gérer avec de la population civile autour de nous, je me rappelle que je faisais hyper gaffe à mon arme. J'avais toujours la bonne pose du gendarme où j'avais la main pas sur l'étui, parce que c'est pareil, il faut faire attention à ça, il faut pas avoir la main sur l'étui, il faut d'abord qu'il y ait des conditions à respecter avant. Enfin bref, j'avais vraiment la main dans la ceinture comme le gendarme le fait parfois, j'avais la position de base du gendarme et je faisais très attention à mon arme. Donc ça m'a beaucoup marqué la première fois que je suis sorti avec une arme, parce qu'en fait parfois on croise même des gens qu'on connaît dans la vie, dans la vraie vie on va dire, dans la vie civile, dans la rue on les voit, c'est des gens avec qui on va se balader parfois, et là je les voyais dans un autre contexte où j'avais une arme chargée sur moi quand même. Et comme moi j'aime bien prendre conscience des choses que je fais et des choses que j'ai, bah là j'avais une arme chargée et ça m'a fait bizarre au début, je me rappelle. Évidemment, je pense qu'avec le temps, on l'oublie un petit peu, et même les semaines d'après, je faisais un petit peu moins attention à ça, mais je me souviens quand même que la première fois que j'avais une arme chargée sur moi, ça m'a fait un peu bizarre. Donc, première semaine, pas hyper intéressante, je fais des procurations, Je fais de l'accueil, en gros, je gère l'accueil, mais ça m'a permis quand même de me rendre compte de la diversité des situations qui existent, en fait, de la diversité de la population aussi, parce que on s'en rend pas compte. Lorsqu'on est étudiant, par exemple, on apprend des cours, on révise, on étudie et on passe des examens après. Lorsqu'on fait un stage, par exemple, comme j'ai pu le faire dans des cabinets de droit pénal ou de droit civil, bah, c'est souvent les mêmes affaires que l'on traite, donc parfois les mêmes profils de personnes avec qui on travaille. Là, c'était des personnes complètement différentes, en fait, tous les jours. Et pour les personnes, je suis sûr que les personnes par ici, ici qui ont eu des expériences de caissier, des personnes qui ont été forcément à l'accueil, à de, peu importe l'endroit, un hôpital, un magasin, peu importe, qui ont été à l'accueil de d'un endroit, je pense que toutes les personnes qui ont été à l'accueil ont pu se rendre compte d'à quel point on pouvait avoir des demandes bizarres, parfois des demandes diverses et variées, des profils de personnes diverses et variées aussi. Donc moi, je me suis rendu compte de ça à ce moment-là. Et voilà, donc c'est ce que ça m'a appris. Après, c'était pas hyper intéressant en soi parce que j'ai rien fait de physique jusqu'à les semaines qui ont suivi, en fait, parce qu'il faut bien prendre conscience que être gendarme réserviste, c'est donner de son temps de temps en temps. C'est pas être gendarme à temps plein. Donc on fait des journées, on donne du temps, on donne une journée par une journée, en fait, la plupart du temps. Deux si on veut donner son week-end entier. Mais moi, quand j'étais gendarme réserviste, c'était le week-end. C'était la nuit de vendredi à samedi, c'était la nuit de samedi à dimanche, etc. Mais c'était pas, ou alors en vacances, comme je le faisais parfois, mais c'était pas le lundi, mardi, quand j'étais en cours. Et la première opération extérieure que j'ai faite, elle s'est produite dans des conditions très particulières, parce qu'elle s'est produite juste après une tentative de suicide. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'accueil de 14h à 16h, quelque chose comme ça, et à partir de 16h, on m'avait dit, tu feras partie de la prochaine patrouille, tu feras partie de la prochaine opération extérieure, enfin, tu iras à l'extérieur, tu sortiras pour la première fois donc de la caserne, et donc je me rappelle que j'étais à l'accueil quelques temps, et vers 15h30, donc juste avant que moi je parte, il y a des gendarmes qui partent, qui reçoivent un appel, oui, on a un problème à Punaoya, on a une personne qui menace certaines personnes avec un couteau, qui est en hauteur par rapport aux autres, faudrait jeter un œil. Donc les gendarmes y vont, pas moi, moi je reste à l'accueil, et quand ils reviennent une heure plus tard environ, ils m'ont dit qu'il y avait une tentative de suicide d'une personne, et carrément qu'elle avait un couteau, qu'elle les avait menacés, enfin bref, c'est pas le genre d'opération que tu fais tous les jours. Donc ils ont dû désarmer la personne, la prendre, la mettre de côté pour éviter qu'elle blesse d'autres personnes ou qu'elle se blesse elle-même, et après ils sont rentrés avec la personne, et j'ai pris conscience que ça aurait pu être moi, en fait, j'aurais pu faire partie de cette intervention, et comme première expérience, ça aurait été compliqué à gérer pour moi, parce que j'étais tout nouveau, donc je me voyais pas faire grand chose, et rassurez-vous, la plupart des gendarmes réservistes ne font pas grand chose en cas d'opération à l'extérieur, en fait ils prennent pas les décisions évidemment, mais parfois on peut être amené à devoir, s'il y a trois gendarmes pour trois personnes à menoter, bah, on a chacun une personne à menoter, et donc on peut être amené à prendre des responsabilités, mais voilà, c'était difficile pour moi à ce moment-là de me dire je vais prendre des responsabilités dès le premier jour. Je vais devoir faire quelque chose de physique dès le premier jour. Ça me paraissait compliqué, surtout que pour l'instant, j'avais fait que des procurations. Donc en fait, j'avais l'uniforme, mais je me sentais pas vraiment encore gendarme opérationnel. J'avais pas fait grand-chose, en fait, pour aider une intervention, pour aider d'autres gendarmes, en fait. Donc dites-vous que les missions que l'on peut effectuer en tant que gendarme réserviste, elles sont extrêmement variées. On peut avoir de tout à n'importe quel moment, et ça dépend juste de la demande. On peut avoir des cambriolages, comme j'en ai eu certains, où on devait intervenir, où on devait parfois prendre des traces, etc. Il y a eu des interventions en ville où on devait séparer des bagarres. Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu à me bagarrer avec qui que ce soit, avec l'uniforme. J'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai même jamais eu à menoter une personne, en fait. Donc tout l'entraînement que j'avais eu avant avec la promotion n'a pas servi lorsque j'étais gendarme réserviste. Il y a eu quoi ? Il y a eu juste de la patrouille, en fait. J'ai pas fait non plus de sécurité routière au cours des missions que j'ai effectuées. Et donc voilà, ça dépend beaucoup de la demande, mais c'est comme les métiers de pompiers volontaires ou les métiers dans le secteur médical, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. Et c'est ce qui rendait un petit peu le métier, on va dire, à la fois surprenant où tu savais pas à quoi t'attendre. Quand j'arrivais dans la gendarmerie à 5h du matin et que je savais que je repartais à 19h, je savais pas ce que j'allais faire au cours de la journée. Mais en même temps, quand t'es débutant, c'est assez stressant parce que tu sais pas à quoi tu peux t'attendre en fait. Et surtout quand t'es au début, tout début de ta formation, que t'as une arme chargée, que la population civile ne peut pas faire la différence entre toi, le réserviste et le gendarme qui est là depuis des années, et qu'on peut t'appeler pour n'importe quelle mission en fait. Donc c'était un petit peu stressant au début, mais j'étais content. Les interventions que j'ai faites à l'extérieur, j'étais content de les réaliser. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'était que mon surnom, c'était Chat Blanc. Dans les patrouilles au cours desquelles j'ai pu réaliser, mon surnom, c'était Chat Blanc, parce qu'à chaque fois qu'on me prenait dans une patrouille, que j'étais présent pour une opération, faut que j'arrête de dire opération extérieure, c'est un autre terme pour une opération, tout simplement, pour une intervention à l'extérieur. À chaque fois qu'on me prenait pour une intervention extérieure, c'était tranquille. Il se passait rien, en fait. Il n'y avait rien de grave. Et donc, on m'appelait Chat Blanc parce qu'il savait que s'il m'appelait, en fait, il n'allait pas se passer quoi que ce soit dans la rue. Ça allait être tranquille. Les rues allaient être tranquilles et on n'avait pas grand-chose de compliqué à gérer. Donc voilà, parmi les, je sais pas, quelques dizaines d'interventions que j'ai pu réaliser, il n'y a jamais eu de réel problème que j'ai dû gérer. Et c'est pour ça que je vous dis que le métier de gendarme, il est surtout dans le fait de surveiller, on va dire, dans le fait de vérifier qu'il n'y a pas de problème et surtout de circuler pour être sûr d'intervenir le plus vite possible en cas de problème. Et c'est un truc qu'on voit pas beaucoup, parce qu'encore une fois, nous, les gendarmes, on les voit souvent lorsqu'ils sont en train de surveiller l'alcoolémie, en train de surveiller la vitesse, etc. Mais il y a aussi un grand rôle de patrouille et de mise en mouvement pour être sûr que tout se passe bien et pour être prêt à intervenir. Donc ça, c'est ce que j'ai fait au cours de mes missions extérieures. Maintenant, je vais essayer de répondre à la question de est-ce que je regrette d'avoir fait cette expérience ? Est-ce que je regrette maintenant d'avoir arrêté d'être gendarme réserviste ? Est-ce que je regrette d'avoir fait cette formation ? Et est-ce que je la recommanderais à quelqu'un ou à qui plutôt je recommanderais, à quel type de profil je recommanderais cette formation ? Je vais essayer de répondre à tout ça de manière assez rapide. D'abord sur le regret, je ne ressens aujourd'hui aucun regret vis-à-vis de cette formation. Je suis très content de l'avoir faite. Elle m'a apporté beaucoup de choses, comme vous avez pu le comprendre au cours de cette vidéo. Elle m'a apporté de la discipline. Elle m'a permis de changer mon identité, dans le sens où avant, lorsque je suis rentré dans cette formation et que je suis rentré dans cette caserne, j'étais un enfant feignant, non discipliné, non ambitieux, sans trop de but dans sa vie, sans trop d'actifs, de victoires à son actif pour être fier de lui. Et cette formation, bien qu'elle ait duré que quelques semaines, je pense a été l'élément déclencheur, avec ma rupture également, pour changer d'identité, pour devenir une nouvelle personne, pour me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses de ma vie, que j'étais capable d'avoir de la discipline, de me lever à 5h du matin, de vivre en cohésion avec un groupe, d'apprendre à faire des choses à plusieurs, etc. Améliorer mes compétences sociales et même me sentir plus utile dans la vie. Donc cette expérience m'a apporté vraiment beaucoup et je suis très reconnaissant d'avoir découvert ça, en fait, des personnes qui m'ont accompagné dans le processus, que ce soit le commandant qui a été très pédagogue en fait au cours de la formation, le major qui l'accompagnait, les personnes de la formation avec qui j'ai entretenu des liens très particuliers en fait, parce qu'aujourd'hui ce sont pas des amis que j'ai, je discute plus avec ces personnes, mais comme on était ensemble 2 semaines d'affilée et qu'on s'est connus dans des galères pas possibles, lorsqu'on était en train de galérer à faire cette montée pour le sport, lorsqu'on se couchait tard, qu'on se levait tôt, qu'on devait tirer le lendemain, qu'on était stressé, que des personnes se faisaient virer, enfin bref, qu'on était dans cette galère un peu ensemble, on s'est dit des choses que j'ai parfois même pas dit à des potes que j'ai depuis des années, parce qu'on vivait la même réalité à un moment donné. Donc c'est pas des amis que j'ai aujourd'hui, je ne parle plus à ces personnes de la formation, mais je suis très reconnaissant d'avoir fait cette expérience parce qu'elle m'a énormément sorti de ma zone de confort et je pense à déterminer l'idée que la façon que je voulais vivre, la façon dont je voulais vivre ma vie, les années qui ont suivi. C'est aussi pour ça que lorsque j'étais en droit, j'ai essayé d'avoir les meilleures notes possibles, de faire le plus de stages possibles, etc. Et lorsque je suis entré en master, de faire une chaîne YouTube en même temps que mes études pour essayer d'optimiser au maximum mes opportunités, enfin de me créer le plus d'opportunités possibles. Je pense que cet état d'esprit est né au cours de l'année où je me suis inscrit en tant que gendarme réserviste. Donc pour moi, très bonne expérience. De toute façon, c'est assez court comme expérience et ça m'a appris énormément de choses en très peu de temps. Donc évidemment, très, très satisfait de l'expérience. Je dirais que les points négatifs, c'est plutôt l'autorité, dans le sens où je pense pas que ça corresponde à beaucoup de personnes. Moi, à ce moment-là de ma vie, j'étais prêt à laisser mon ego au placard, dans le sens où je savais que j'allais être mis sous l'autorité de personnes et que j'allais souffrir au cours de cette formation, et j'étais là pour ça, en fait. J'étais là pour ça, et donc comme je vous l'avais dit plus tôt, les douleurs que j'avais au cours de cette formation étaient justifiées par ma volonté d'apprendre et de changer. Mais donc, je pense que les personnes qui ont du mal avec l'autorité auront du mal à réaliser cette expérience et même à vivre dans un milieu militaire qui est extrêmement normé, qui est extrêmement hiérarchisé et où la hiérarchie est extrêmement présente et importante et omniprésente à tous les stades. Donc je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais je pense que pour les personnes qui ont besoin de cette discipline ou juste qui ont envie aussi d'apprendre des choses, de se découvrir elles-mêmes et d'être utile, de contribuer à la société d'une façon ou d'une autre, en donnant de leur temps, les week-ends, en période de vacances, etc., pour faire quelque chose d'utile de leur temps, et apprendre en même temps plein de choses au contact de personnes qui sont de milieux différents, et découvrir cette micro-société de la gendarmerie, de l'armée. Je pense qu'évidemment, c'est une expérience extrêmement enrichissante à avoir dans une vie, et ça nous rend beaucoup plus, on va dire, conscients de la société, en fait, parce que la gendarmerie, c'est une micro-société qui réplique ce qui se passe dans la société globale. Et bref, j'ai appris énormément de choses, et ça apprend aussi, c'est une prise de maturité assez énorme, parce qu'on est souvent en contact avec des personnes qui ont énormément d'expérience. Enfin bref, je vois pas beaucoup de points négatifs, moi, vous l'avez compris, c'est une expérience que j'ai quand même aimée, à part, je dirais, l'autorité, qui n'est peut-être pas pour tout le monde, le fait que c'est très hiérarchisé, et que je pense aussi que le milieu militaire en soi ne plairait pas à tant de personnes que ça, parce que en effet c'est un milieu quand même qui est assez différent du milieu civil, et il faut en être conscient avant d'y mettre un pied. Maintenant, pour revenir à mon expérience personnelle, j'ai réalisé au cours de mon temps de gendarme réserviste une quinzaine d'interventions avec la gendarmerie en tant que gendarme opérationnel, donc que ce soit à l'accueil pour les procurations ou que ce soit à l'extérieur pour les patrouilles et les différentes missions que l'on pouvait avoir au cours de la journée. J'ai dû réaliser une quinzaine de journées, donc une quinzaine de week-ends au cours desquels j'étais là pour donner de mon temps. Pour ceux qui se demandent, la rémunération, elle a dû évoluer depuis que j'ai réalisé moi mon expérience à moi. À Tahiti, elle était supérieure à la France, parce que à Tahiti, enfin bref, les prix sont indexés par rapport au prix de la vie là-bas. Donc moi c'était rémunéré environ 90€ la journée, mais c'était énorme par rapport à la France, où c'est plutôt, il me semble, entre 40 et 60€ la journée. Il faut savoir que la journée, ça peut très bien être 4 heures, si par exemple tu es appelé pour 4 heures et puis qu'il n'y a pas d'autre mission pour toi, ou ça peut très bien être 12 heures si tu as beaucoup de choses à faire au cours de la journée. C'est pas des horaires fixes. Moi, j'avais des journées où j'étais appelé parfois pour 4-5 heures et des journées où j'étais là quasiment toute la journée. Et c'est simplement la nuit où, par exemple, si tu fais une opération qui commence à 20 heures et que ça se poursuit jusqu'à 2 heures du matin, ça va être comptabilisé comme 2 jours. Donc tu vas être payé comme 2 jours. Mais moi, c'était plutôt des opérations que je faisais de 6 heures du matin, 5 heures du matin à 16 heures, ou de 16 heures à minuit. Et voilà. Donc moi, c'était rémunéré comme ça. Et donc une quinzaine d'opérations environ, donc quinzaine de journées que j'ai données. Donc c'est pas énorme, et c'est justement le point que je voulais donner à la fin de ce podcast, c'est que en effet je n'étais gendarme réserviste que un an. Donc de la licence 1, première année de ma première année de droit, au début de ma licence 2 en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, et c'est là où je dis que cette histoire s'est un petit peu mal finie, il y a eu une autre raison aussi sur laquelle je vais revenir juste après, mais la première raison, c'est que lorsque j'ai fini, donc que mes parents ont terminé leur contrat de mutation à Tahiti de 4 ans, et qu'on a dû tous rentrer en France, il y a eu un transfert de dossier de Tahiti à la France, donc dans la Normandie, en Normandie, là où je vis actuellement et là où j'ai fait mes études, et il y a eu plusieurs problèmes. Déjà, mon dossier a été perdu plusieurs fois, parce que c'est même pas un dossier informatique, c'était un dossier écrit, papier, qui était donc envoyé depuis Tahiti jusqu'à la France, qui a été perdu plusieurs fois, et donc je me rappelle avoir eu, alors que j'étais en droit en deuxième année et que je galérais déjà en droit, avoir des appels à passer, avoir des personnes qui m'appelaient pour me dire que mon dossier n'était pas arrivé, enfin bref, il y avait tellement de complications, en fait, en même temps que ma deuxième année de droit en France, où j'ai beaucoup galéré, vous le savez, c'était une année où j'ai eu beaucoup de difficultés et que j'ai validé mon année au rattrapage, et tout ça mélangé fait que je me suis désintéressé de la gendarmerie et je voulais plus en fait donner de mon temps, j'avais plus le temps pour ça, et la perte de mon dossier avec le manque d'informations, enfin j'avais zéro information pour m'aider en fait, j'avais pas de, c'était inédit comme, enfin c'est pas tous les jours qu'on perd notre dossier, c'est ce qu'il m'avait dit, j'avais passé déjà beaucoup d'appels, et donc la pression des études cumulée au désintérêt de la gendarmerie par rapport à tout ce qui s'était passé avant et par rapport à toutes les complications qu'il y a eu par rapport à Tahiti où c'était hyper simple et où j'appelais ou j'étais appelé pour faire des missions, voilà, et j'allais, j'aidais et puis je rentrais chez moi, toutes ces complications plus la difficulté de mes études et mon envie peut-être de à ce moment-là être plus dans le milieu juridique que le milieu de la gendarmerie ont fait que j'ai lâché l'affaire et je n'ai même plus envie du tout d'être gendarme réserviste et j'avais plutôt envie de me concentrer sur mes études à fond et de devenir le meilleur juriste possible. Donc ça s'est terminé comme ça et aujourd'hui je regrette pas du tout d'avoir pris cette décision d'arrêter à ce moment-là après un an parce que je considère que j'ai eu des enseignements intéressants avec cette expérience. J'ai connu pas mal de situations différentes déjà qui m'ont donné une idée du métier même si je suis très loin d'avoir fait une carrière en tant que gendarme réserviste ou même en tant que gendarme qui a connu des dizaines et des dizaines de situations différentes. Mais en tout cas je suis content d'avoir goûté à ça pour me rendre compte des années plus tard que c'était pas forcément ça que je voulais, notamment avec ce rapport à l'autorité que j'ai du mal moi à tolérer maintenant. En fait je la tolérais bien lorsque j'étais en première année et que je savais pas quoi faire de ma vie, mais maintenant que je sais quoi faire de ma vie et à partir du moment où j'ai su ce que je voulais faire de ma vie, j'avais beaucoup plus de mal à tolérer l'autorité sur moi parce que je voyais plus ça comme un frein à mon épanouissement personnel, alors qu'avant je voyais ça comme une direction qu'on allait me donner à un moment où moi je n'arrivais pas à donner moi-même de décision et d'orientation à ma vie, à ma propre vie en fait. C'était plus simple de déléguer la décision qu'on allait donner à ma vie en la donnant à quelqu'un d'autre, à une autorité que représentait la gendarmerie, plutôt que de prendre moi-même mes propres décisions. Donc je dirais que je suis quand même content, comme je vous l'ai dit, d'avoir connu cette expérience. Et généralement, hein, les personnes qui ont connu une expérience comme celle-ci, moi j'ai un ami qui est pompier volontaire encore aujourd'hui, il ne regrette pas. C'est une expérience incroyable, très difficile parfois, surtout chez les pompiers. Moi, j'ai pas été gendarme réserviste assez longtemps pour connaître une expérience qui peut être traumatisante ou qui peut être très difficile à vivre émotionnellement, mais j'ai l'impression d'avoir déjà goûté à ça, et c'est pour ça que je regrette pas du tout, comme je vous l'ai dit, d'avoir connu cette expérience. Je la recommande, évidemment, aux personnes que ça pourrait intéresser, donc je sais qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par ça, qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le sujet, donc vous avez compris que moi je le recommande. Je vous recommande surtout aussi de faire beaucoup de recherches en dehors de cette vidéo, de regarder des vidéos sur le sujet, comme j'ai pu le faire, pour vraiment vous faire une idée quand même du milieu avant d'y entrer, de savoir pourquoi vous voulez faire ça, pour mieux comprendre ensuite tout ce qu'on va vous imposer de faire une fois que vous serez arrivé là-bas. Et puis, la dernière chose que je voulais préciser, et qui rend cette histoire un petit peu plus triste qu'elle ne l'était au début, où c'était assez positif, c'est que le commandant qui m'a donné donc cet objet qui représentait, pour la petite histoire, mon envie de devenir officier de gendarmerie, donc le commandant qui s'est occupé de la formation, qui était donc le directeur de la formation, je lui avais fait part de mon projet à ce moment-là de devenir officier de gendarmerie, parce que c'était mon rêve à ce moment-là et que je voulais devenir officier après avoir fait mes 5 années de droit, comme je vous avais expliqué. Et donc, lorsqu'il a appris ça et qu'il a vu que j'étais extrêmement déterminé pour le faire, il m'avait donné son grade, enfin l'objet qui représente le grade de commandant de gendarmerie, donc qui est un grade assez important dans la gendarmerie, et il m'a dit que le jour de ma promotion, lorsque je serai devenu commandant, après des années d'efforts, je pourrai le porter ici, à mon épaule, lorsque j'aurai reçu cette promotion. Et ce commandant est décédé aujourd'hui. Il est décédé il y a quelques années. Et c'était quelqu'un qui était assez important. Vous savez, il y a toujours des personnes qui sont importantes dans notre développement. Peu importe en fait la façon, enfin le rôle qu'ils ont joué, j'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins le produit de notre environnement et des personnes que l'on a rencontrées au cours de notre vie. Et ce commandant a été une personne dont je me souviendrai, et je citerai pas son nom par volonté de préserver son anonymat, mais je sais qu'il avait une fille qui avait quelques années de moins que moi. J'en ai parlé avec un ami à lui qu'on avait en commun, un ami qu'on avait en commun, qui m'a appris cette nouvelle il y a quelques années, parce que c'était à Tahiti et je n'étais pas au courant. Et voilà, je voulais juste, si jamais il m'écoute de là-haut, lui dire qu'en effet j'ai changé de direction. Maintenant je suis plutôt du côté de la caméra plutôt que du côté de l'uniforme, mais que les enseignements que j'ai eus au cours de cette formation me servent encore aujourd'hui. La discipline que l'on m'a inculquée au cours de cette formation me sert encore aujourd'hui, et tous les efforts qu'il aura pu faire au cours de cette formation n'auront pas été vains, parce qu'ils ont permis, ils m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et voilà, je voulais juste faire un petit message en fin de ce podcast pour remercier cette personne que vous ne connaissez pas, mais qui moi m'a aidé au cours de ma formation, et qui représente aujourd'hui vous voyez que j'ai toujours l'objet avec moi, et ça représente pour moi une de cette expérience, enfin un moment, ça me rappelle cette expérience de gendarme réserviste qui est toujours importante pour moi, même si elle s'est terminée de manière un petit peu rapide et imprévue. Mais voilà, c'était une expérience qui a été très importante. Vous savez, il n'y en a pas des dizaines comme ça, des expériences qu'on peut vivre comme ça dans une vie. Et voilà, je suis juste content aujourd'hui de vous faire une vidéo sur ce sujet-là, parce que je pense qu'on doit tous, on devrait tous vivre la meilleure existence possible. Et c'est ce genre d'expérience qui nous permet de vivre des choses assez incroyables en un court laps de temps, et de me rendre compte du nombre de choses que j'ai apprises au cours de cette formation, et du nombre de personnes que j'ai côtoyées, et du nombre de souvenirs que j'ai en tête en seulement quelques semaines de formation et quelques jours de réel de métier, en fait, d'opération, de sortie et de découverte du métier en étant opérationnel. C'est incroyable en fait, et c'est ce genre d'expérience qui me donne envie d'en avoir plus, des expériences comme ça, et je peux que vous recommander vous aussi de vous lancer parfois lorsque vous avez une idée en tête, qui vous reste surtout en tête longtemps, comme ça a été le cas pour moi pour cette expérience de gendarme réserviste. Je peux que vous recommander de vous lancer dans des projets, comme je vous le dis depuis le début de ma chaîne YouTube, et de connaître des expériences. Parce que dans quelques dizaines d'années, lorsqu'on sera sur notre lit de mort, qu'on sera à l'hôpital et qu'on sentira que c'est la fin, je pense qu'on sera content d'avoir vécu des belles expériences comme celle-ci, humaines des expériences humaines, c'est ça, entourées d'humains, entourées de personnes qui ont été importantes dans notre processus, et juste d'être fier de nous et de partir avec plein de souvenirs en tête. Et moi, c'était le cas, en tout cas, avec cette expérience, parce que j'ai encore plein aujourd'hui de souvenirs en tête de ça. Et je garde toujours dans un coin de ma tête cette expérience qui était très importante et que vous connaissez maintenant aujourd'hui quasiment dans les moindres détails, parce que c'est un des podcasts les plus longs que j'ai fait depuis le début de mon podcast. Et voilà, j'espère que ça pourra vous parler. Je sais pas si je vais créer des vocations pour devenir gendarme réserviste. Moi, je veux pas créer des gendarmes réservistes, je veux juste créer des personnes qui sont contentes de ce qu'elles font, qui sont fières de leur parcours, qui tentent des choses, peu importe que ce soit dans le milieu civil, dans le milieu militaire, mais des personnes qui font quelque chose de leur temps et de leur énergie, qui font quelque chose d'utile aussi pour les autres. Et voilà, donc si je peux vous donner quelques pistes avec ce podcast, je suis très content, et j'espère que les enseignements de ce podcast vous serviront dans votre vie à vous et vous donneront peut-être quelques idées. J'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié cette histoire, et puis je vous invite aussi vous à créer votre propre histoire et vos propres souvenirs, et de pourquoi pas les raconter comme je l'ai fait aujourd'hui dans ce podcast. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour le prochain podcast sur cette chaîne ou sur ma chaîne principale, et puis on se retrouve nous dans quelques jours dans tous les cas. Prenez soin de vous, bon courage dans vos projets et bon courage dans vos révisions. Ciao.
even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.